Hello there.
Bonjour.
Vers l'infini et au-delà.
It's gonna be legendary.
Good to see you too, Pop.
Trois fois mille. Je compte même pas jusque là.
This is your king, George the Third.
C'était fun.
Telle est la voix.
Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Je suis Émilie, et pour cet épisode, je suis accompagnée de deux de nos fidèles chroniqueurs, Cédric et Shane. Salut!
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 Et oui, c'est déjà le dernier épisode de l'année, qui est passé très vite, je trouve. Et on a un programme assez chargé pour clôturer l'année 2023. On voulait évidemment vous parler du tout dernier classique d'animation Disney qui est sorti pour les fêtes, et celui qui marque les 100 ans de la Walt Disney Company, Wish, ou alors Wish 2 points, achat et la bonne étoile si on veut être complet. On y reviendra. Cette sortie, c'était aussi l'occasion pour nous, du coup, de revenir un peu sur les 100 ans de Disney, comment les studios ont voulu fêter l'événement, et sur la tradition des films Disney, qu'on va dire de Noël, en tout cas des sorties pour les fêtes du classique d'animation de fin d'année. Donc voilà, tout un programme pour un épisode qui risque d'être un peu long, mais on sait que vous aimez ça. Donc on vous retrouve après le jingle. Alors, comme on le disait, cette année, Disney a fêté ses 100 ans, puisque c'était en 1923 qu'a été créé ce qui deviendra la Walt Disney Company, qui était à l'époque les Disney Brothers Studios, et que sont sortis les premiers courts-métrages, donc des Alice Comedies. Alors, on ne va pas retracer toute l'histoire des studios, peut-être que Shane va nous le faire quand même. Non, je rigole. Non, on va pas retracer toute l'histoire des studios parce qu'il faudrait au moins 10 heures de podcast pour ça. Mais bon, voilà, on voulait quand même un peu parler des 100 ans, donc ce qu'on vous propose, c'est de vous conseiller quelques petites ressources intéressantes pour ceux qui voudraient vraiment se plonger dans l'histoire de la compagnie. Et moi, j'ai envie de commencer par vous conseiller un épisode d'un autre podcast que j'ai écouté récemment, c'est l'épisode 24 de Hyperion Avenue, que les fans Disney doivent connaître, à mon avis, depuis le temps, qui retrace vraiment par décennie l'histoire de l'entreprise. C'est super sympa à écouter et assez complet. Alors du côté livres, forcément il y en a plein, je pense qu'on en a pas mal chez soi d'ailleurs. Disneyland Paris en a sorti un nouveau que j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter. Maman, si tu m'écoutes, il faut vraiment qu'on aille à Disney.
Je m'en prendrai un aussi.
Oui, ça va, je te fais une petite commande. Non, donc ils ont sorti dernièrement un livre qui s'appelle Disneyland Paris célèbre 100 ans de Disney. Et le concept est assez chouette. En fait, ils revisitent donc 100 dates emblématiques, j'imagine les 100 années surtout, et regardent de quelle manière elles sont célébrées à Disneyland Paris. Alors ça peut être par une attraction, par un spectacle, ou juste par des petits détails cachés dans le parc. C'est fait par Jérémy Noyer, comme les précédents, c'est sûrement très sympa. Voilà.
Ouais, c'est sans doute un peu comme celui sur les 25 ans, où il retraçait heure par heure tout ce qui se passe dans le parc. Bah, ici, ce sera année par année, sans doute.
Ouais, voilà, et alors il suivait l'alphabet aussi pour présenter le parc, enfin voilà. Mais oui, toi, tu avais aussi quelques propositions de ressources.
Oui, j'en ai rajouté quelques-uns. Tout d'abord, il y a les archives des films Walt Disney, qui est sorti en deux éditions chez Taschen. À une très grosse format brique qui pèse 10 kilos et qui coûte très cher. Mais il existe aussi la version pauvre à 20 euros, en beaucoup plus petit. Mais je crois que le texte est le même. J'ai pas comparé. Mais c'est, disons qu'il y a moins de photos, il y a moins d'archives, etc. Moi, j'ai la version pauvre. Et c'est parce que, franchement, j'ai la version Star Wars de la même collection et c'est déjà des briques. Je voulais pas la même chose pour Disney, et je conseille à moitié, dans le sens où c'est sympa, il retrace tous les films, mais en fait, pour moi, ce qui manque, c'est que c'est pas complet. Les films qui sont un peu borderline, on va dire ceux de, je pense à Bernard et Bianca, je pense à tous les films composites des années 40, sont quasiment pas abordés, et parfois, en fait, il y a juste la date sortie et on passe au suivant. Ouais, ça, je trouvais ça un peu dommage. Quitte à faire un tel bouquin, autant aller à fond. Donc ça. Mais sinon, ça reste un bel objet pour les gens qui ont envie. Sinon
En fait, je
aussi.
réalise qu'on est en train de faire la liste de Noël des gens. Tu vois,
Ah,
je m'étais juste dit on va
peut-être.
proposer des ressources, mais en fait, on est carrément en train de vous proposer des cadeaux à mettre sous le
Ah,
sapin.
bonne idée. Bonne idée. Une autre série qui pourrait être très intéressante, c'est la série éditée par Pierre Lambert chez Guin et Menin, où chaque tome retrace un film. Je crois qu'il y en a une dizaine qui sont sortis actuellement. Alors moi, je les ai pas, mais j'ai entendu du bien. Par contre, le gros problème de cette collection, c'est qu'une fois que c'est épuisé, impossible à retrouver. C'est sur Vinted à 200 balles. Ça, c'est vraiment très triste comme constat. C'est pas réédité, résultat, les scalpeurs s'en donnent à cœur joie. Sinon, d'autres qui sont vraiment sympas, c'est les MOOC de chez Innis Edition. Je sais pas si vous connaissez le principe du MOOC. C'est une sorte de mélange entre un magazine et un livre. Et ils ont sorti en gros un tome par studio d'animation. Il y a eu Ghibli, il y a eu Illumination, DreamWorks, et il y a aussi bien sûr hommage au studio Disney et Pixar vers le génie et au-delà. Et ces deux-là, je les ai lus, franchement, ils sont très sympas. Donc, pour 15-20 euros, vous avez un historique de chacun des deux studios, franchement, ça je conseille.
Ouais, c'est top. Et puis c'est pas trop lourd, quoi, pour ceux qui veulent pas justement acheter une
C'est
brique
ça, voilà.
ou un truc
Et
hyper
c'est moins
détaillé, c'est
cher
vraiment
aussi.
chouette.
C'est vraiment un
Ouais.
bon compromis. Et alors, un dernier que j'ai vu passer, mais je ne l'ai pas encore lu, c'est The Walt Disney Studio, La naissance de la magie. Aussi un livre qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois, qui retrace vraiment l'historique des langues du studio. Donc c'est peut-être moins les films, mais vraiment le fonctionnement du studio. Donc ça peut être sympa aussi. Mais un jour, si vous voulez me l'offrir. Donc voilà, quelques idées.
Et Cédric, toi, tu voulais nous rajouter une idée?
Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas de conseils
T'as
particuliers
pas de liste de
pour.
Noël?
Voilà, non, pour les.
Oh
J'en ai pas. Personne ne m'offre rien.
là là, pleurons un
Voilà.
coup. Une minute
Chers
de
auditeurs, si
silence
vous
pour
voulez m'offrir
Cédric,
quelque
s'il vous
chose,
plaît.
voilà.
Si vous voulez faire une petite donation pour la fin de
Voilà.
l'année ou pour
On
Cédric.
mettra mon adresse sous le poste de l'épisode.
Oh, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de livres ici. Hein. Après, évidemment, il y a aussi plein de chouettes trucs sur Disney+, et même dans les livres, on pourrait y passer des heures. Mais voilà, je pense que c'était surtout l'occasion de vous proposer quelques idées pour Noël ou quelques idées de lecture. On voulait quand même, avant de passer à Wish, mettre en valeur un petit court-métrage et vous parler du petit cadeau que Disney+ a sorti à l'occasion des 100 ans. Je me suis dit d'ailleurs, pour moi, ils auraient dû le passer au cinéma avant Wish.
Mais c'était prévu. Moi, j'ai lu que c'était prévu, et en fait, ça a été annulé dans de nombreux pays. Et du coup, il y a seulement quelques pays qui vont l'avoir. Enfin, ou qui l'ont
Mais
eu, du coup.
pourquoi?
Je sais pas. Cédric, tu l'as, tu sais?
Oui, alors je sais que quand ils ont présenté Wish dans un festival, je sais plus lequel, ils ont proposé juste avant Wish, ils ont passé Il était une fois un studio. Et du coup, c'est quand ils ont vu le retour du public qui a quand même acclamé ce petit court-métrage, c'est là qu'ils ont décidé de le passer sur Disney+ et de le sortir sur Disney+. C'est ce que j'avais lu, je sais plus où j'avais lu ça. Voilà, ils avaient fait comme un peu une projection test, quoi.
Bah oui, je trouvais ça vraiment dommage quand je l'ai vu et que je suis sortie du cinéma. Je me dis, en plus, il y a souvent, si pas toujours, un petit court-métrage avant les films d'animation Disney. Il y avait eu les courts-métrages Olaf, des trucs dans ce genre-là. Bah, j'aurais trouvé ça chouette. En plus, oui, j'insiste tellement sur les 100 ans, le côté on célèbre les 100 ans, que bah, il doit y avoir une raison là derrière, mais voilà, je trouve ça dommage. Mais
Oui,
bon, soit.
effectivement, derrière, avant Encanto et avant Valonia, effectivement, il y avait dans les deux cas, donc.
Oui, dernièrement, il y a toujours.
Mais même ça là, les deux courts-métrages que vous parlez devant Avalonia et Encanto, ça dépend les cinémas, parce que moi par exemple, j'ai jamais de court-métrage avant. Ça fait plusieurs fois qu'on
Ah
me dit
ouais.
ouais, il y a le court-métrage avant, et moi à chaque fois je l'ai pas dans mon cinéma. Alors je sais pas,
C'est le sud, ça.
ouais voilà, ça vient pas jusqu'à chez nous.
Sinon, j'ai peut-être une explication aussi, c'est que aux États-Unis, il est passé à la télé. Donc lors d'une émission consacré aux 100 ans, qui s'appelait The Wonderful World of Disney, Disney 100th Anniversary Celebration, C'était la veille de la sortie sur Disney+, et il est passé à la télé, sur ABC, donc qui est la chaîne de Disney. Est-ce que du coup, pour, enfin, je sais pas, ou
Pour
avoir
des
là, de
raisons de
nouveau
droit
la
ou...
primauté de Disney+, tu vois, te dire, mais vous voulez voir le court-métrage des 100 ans, ben, abonnez-vous, quoi, je sais pas.
Ouais, je
Et en
sais
fait,
pas. Parce que
ça,
moi, je me dis, c'est un hameçon pour les fans, ce court-métrage, surtout. Et les fans, ils ont Disney+ depuis longtemps. Ils ont déjà leur abonnement. Donc,
Et
enfin, bon,
puis,
soit.
je vois mal quelqu'un s'abonner uniquement pour un court-métrage de 8 minutes.
C'est clair,
Oui,
c'est
non,
clair.
non, bien sûr, mais bon, parfois, on ne comprend pas.
Mais du coup, Cédric, explique-nous, qu'est-ce que ce court-métrage, Il était une fois un studio?
Donc, Il était une fois un studio, ben c'est un court-métrage d'animation américain réalisé par Dan Abraham et Trent Corey. Il est sorti donc en avant-première le 11 juin 2023, donc ben c'est le festival justement que je vous parlais, au Festival international du film d'animation d'Annecy, donc en 2023. Et donc il est diffusé en même temps que Wish, Achat et la Bonne Étoile. Il arrive donc sur Disney+ le 16 octobre de cette année. Donc c'est un court-métrage qui a été imaginé un peu comme une lettre d'amour au studio, à ses artistes et à ses fans. Alors il faut savoir que ce n'est pas un projet pensé par le studio. Il est l'initiative de deux réalisateurs qui ont voulu rendre hommage aux films qui leur ont donné envie de devenir animateurs, justement. Et donc ils ont préparé le script et le concept pendant leur temps libre avant de le présenter à Jennifer Lee, la directrice de création de Walt Disney, qu'on reparlera plus tard, parce qu'elle est impliquée aussi dans Wish, Achat et la Bonne Étoile. Elle a été séduite immédiatement par le projet. Alors, sinon, de quoi ça parle? Alors, c'est mêlant d'images réelles et animation. Le court-métrage débute alors que les employés quittent le soir venu le bâtiment historique du studio, celui-là même où Walt Disney avait son bureau. Une fois les portes fermées, Mickey et Minnie sortent des tableaux placardés sur les murs pour appeler tous les autres personnages dans le but de faire une photo de famille. Alors, la première version faisait environ 12 minutes, mais elle fut réduite ensuite à 9 minutes. Dan Abraham a justifié ça par le fait qu'il trouvait que ça aurait été absurde de complexifier l'intrigue et que tout ce qu'il voulait, c'était juste passer du temps avec ses personnages. Après, coupez-moi si vous voulez dire quelque chose, hein. Moi, je continue, mais...
Là, vas-y.
Ouais, moi je me disais juste par rapport au fait que c'est eux qui sont venus présenter à Jennifer Lee, ce qui est un peu triste, c'est que tu te dis, mais si ces deux gars-là n'avaient pas lancé un projet, ils auraient fait quoi pour les 100 ans? Parce que déjà, alors j'y étais pas dans les parcs, mais de ce que j'en ai entendu, c'était assez light, comme allez, en termes de célébration. Bah, le film, oui, il y a Wish qui est sorti pour les 100 ans, mais j'ai envie de dire, bah, ils sortent un classique d'animation comme ils en sortent presque tous les ans. C'est un peu triste, quoi. Je me dis déjà un court-métrage, bah, il est chouette le court-métrage, mais c'est un peu maigre comme façon de célébrer les 100 ans. Bah, s'il n'y avait pas eu ça, ils n'avaient rien prévu en fait. Enfin, c'est un peu
Après,
inquiétant.
on en parlera après. Dans Wish, il y a quand même plein de choses qui sont là pour célébrer les 100 ans. Hein. Attention, on ne veut
Oui,
pas dire qu'il n'y
d'accord,
avait
mais c'est
rien
un
et c'est
film.
juste un classique d'animation. Moi, c'est plus que ça. Ça, c'est un spoiler pour plus tard.
Ouais, mais tu vois, il y a un film, ça aurait été bien. Alors effectivement, ils ont fait une émission ABC, j'ai envie de dire, c'est un peu le minimum. Tu vois, ça aurait manqué peut-être de plus de documentaires. Allez, un peu plus de trucs à se mettre sous la dent, quoi. Je veux dire, les 100 ans, c'est quand même énorme. Et là, quand j'ai entendu cette histoire que c'était même pas prévu à la base, c'est une initiative de deux employés et pas de la direction, je me dis, mais... Enfin, ils ont rien prévu, en fait.
Moi, je suis du même avec Camille. Moi, je trouve incroyable qu'un studio de la taille de Disney qui fête ses 100 ans ne fasse pratiquement rien,
C'est peut-être une
un
preuve
film.
que ça ne va pas.
Oui, parce que
Ouais,
le studio ne va pas.
c'est clair.
Parce qu'ils auraient pu très bien, tout au long de l'année, je sais pas, sortir une série, donc un peu comme Imagineering, une série documentaire sur les 100 ans, faire sur plusieurs épisodes,
Ouais, c'est vrai ça.
voilà, faire des petits trucs comme ça. Donc,
Mais il y a l'expo aussi qui tourne, je sais pas.
oui.
C'est à
Mmh,
Londres
c'est
pour
vrai.
l'instant, je
À
pense.
Munich aussi, je crois.
Je sais
C'était
pas
à
si ça
Munich et
arrivera
Londres.
ailleurs. J'ai pas fait attention.
Moi, je suis allée voir samedi le concert Disney 100, justement, où ils reprennent les musiques de Disney avec un orchestre symphonique. C'est super chouette, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui a été fait pour les 100 ans, parce que je pense
Il
que
y avait
ça
déjà
tournait
eu les
déjà
autres
depuis quelques
années.
années.
En fait,
Voilà, il y avait
il
un
passe
truc
tous les
Disney, le
ans.
concert événement.
Et il passe tous les ans depuis, je dirais, 3-4 ans. Du moins en Belgique et à Paris aussi, je pense, et même dans d'autres villes de France. Mais effectivement, celui de cette année était labellisé 100 ans. Mais est-ce que le contenu était vraiment différent? Ça, je ne sais pas. Il faudrait avoir quelqu'un qui a été voir plusieurs fois le spectacle. Mais soit que c'est la même chose pour Disney on Ice. Enfin, Disney on Ice, ça passe tous les ans.
Oui, c'est
Et
vrai.
celui de cette année, c'était les 100 ans, tu vois. Bon, voilà.
Oui, c'est ça, c'est pas une célébration particulière.
Donc, on peut voir dans le court-métrage 543 personnages issus de plus de 85 longs et courts-métrages. Donc, les Peter Pan, Merlin, Vaiana, Elsa, etc. Mais on peut retrouver également de nombreuses photographies d'artistes sur les murs du bâtiment. C'est ainsi que les réalisateurs ont tenu à rendre hommage à toutes les générations d'animateurs ayant travaillé pour le studio. Le film rend d'ailleurs un hommage particulier à l'animateur Bernie Mattison, qui a passé près de 70 ans dans la maison Disney. Et donc, pour ceux qui ont vu le court-métrage, c'est le vieux monsieur qui ferme les portes du studio au début du court-métrage.
Ils n'ont pas de retraite aux États-Unis.
Non.
Quand tu penses 70 ans chez Disney, tu calcules s'il a commencé à travailler à quel âge, mais oui. Enfin,
Il
bon.
avait peut-être 15 ans,
Ouais.
Ouais, mais même, attends,
oui,
il
moi on
faut
est
prendre sa
d'accord.
retraite. Hein.
Ouais. Bah, ouais, après, si c'est lui qui a envie de continuer, il y a des gens qui ont envie aussi.
Ouais. Bon, après, faut voir vraiment ce qu'il faisait ces dernières années. Enfin, je sais
Il venait
pas
peut-être
ce qu'il
une fois
fait.
par semaine, juste pour
Oui,
faire
il venait
un
comme
quoi.
consultant animateur. On connaît, on
Voilà,
connaît.
il avait ses habitudes. Donc, malheureusement, il est décédé le 27 février de cette année. Mais bon, par chance, les réalisateurs ont pu lui montrer, il était un studio avant sa disparition. Donc, le film rend hommage également à Richard Sherman, qui à 94 ans a revisité le titre préféré de Walt Disney, Nourrir les petits oiseaux, le célèbre air de Mary Poppins. Il s'agit d'un nouvel enregistrement réalisé spécialement par le compositeur Richard Sherman, qui pour le court-métrage est allé rejouer ses notes émouvantes sur le piano dans le bureau de Walt, là où il était habitué à lui jouer des compositions, dont cette musique, avec son frère. Et ça, par contre, je trouve ça incroyable quand même.
C'est super beau.
Voilà. Ils sont venus. Et donc vous en avez pensé quoi de ce court-métrage?
Bah, franchement, c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est un peu court, on l'a dit, mais revoir comment ils ont réussi à caser tous ces personnages en quelques minutes, tout en ayant quand même quelques blagues qui se passent par-ci, par-là. Et puis la photo de fin, bien sûr, c'était vraiment, vraiment cool. Moi, ce que j'ai bien sûr préféré, c'est quand ils doivent prendre l'ascenseur et qu'il y a le
Oui.
paresseux de Zootopie qui dit attendez-moi. Ça c'est
Ça,
excellent.
c'est
Bah, déjà,
génial.
c'est déjà un de mes moments préférés de Zootopie, le paresseux, bah, comme beaucoup de gens. Mais ils ont vraiment réussi à trouver plein de chouettes idées. Donc vraiment très content qu'ils aient fait ça, même si c'était, comme on l'a dit, pas prévu. Vraiment, je trouve ça vaut le coup, et si vous l'avez pas encore vu, bah, courez, il faut absolument avoir vu ça. Mais ça dure pas longtemps et on passe un bon moment.
Ouais, c'est clair. Puis c'est vrai que comme tu dis, c'est bien ficelé. Et je pense peut-être ça se sent que c'est un projet qui vient du cœur, qui a été lancé par des animateurs qui voulaient vraiment le faire. Parce que j'aurais trouvé ça triste qu'ils nous sortent un court-métrage, entre guillemets, à la va-vite avec, je sais pas moi, Mickey qui rassemble les personnages vite fait et on n'en parle plus. Ici, c'est pas du tout le ressenti. Tu sens pas que c'est quelque chose de commercial. Tu sens vraiment qu'il y a la volonté de ramener un max de personnages. Et il y en a vraiment beaucoup. On peut le regarder plusieurs fois et repérer. Il y en a énormément. Il y a, comme tu dis, il y a des petites blagues qui sont bien placées. Il y a la séquence émotions avec la musique, quand ils chantent tous quand on prit la bonne étoile, etc. C'est il y a de l'émotion et tu sens que c'est fait par des gens qui ont vraiment à cœur de bien représenter Disney, quoi. Et rien que l'introduction avec la stagiaire et le Bernie Mattison là, qui disent waouh, c'est incroyable tout ce qui s'est passé dans ces studios. Tu sens l'émotion, c'est pas trop non plus, je veux dire, c'est pas du pathos non plus, mais c'est vraiment chouette. Et oui, c'est ça, il est très court, il faut le regarder, il fait plaisir à tout le monde. Je pense que tous les fans de Disney ont versé leurs petites larmes en regardant ça. Et voilà. Et encore une fois, moi je trouve juste dommage qu'il ne soit pas passé au cinéma parce que c'était vrai. Allez, pour moi, c'est vraiment une occasion manquée.
Oui, ça aurait vraiment valu la peine de voir ça dans une salle où il y a d'autres gens. pour aussi avoir les réactions des gens, entendre.
Bah
Moi,
oui.
j'aime bien au cinéma quand t'as les gens, ils font wow! Et des trucs comme ça. Enfin, il y a des gens qui aiment pas, qui veulent être dans leur truc et qui aiment pas les. Moi, je trouve que c'est la partie de l'expérience d'avoir
Ouais.
les gens qui applaudissent en plein milieu du film parce que le Spider-Man
J'allais le dire.
de Tobey Maguire arrive dans le dernier Spider-Man ou bien que Han Solo arrive dans le Faucon Millennium. Enfin, pour moi, ça fait partie du truc, quoi. Enfin, j'ai envie de voir ça au cinéma avec d'autres gens. J'ai pas envie de voir ça dans mon canapé. Enfin, personnellement,
Ouais.
hein, ça, je sais que je connais des gens
Ouais,
qui
c'est
sont pas
vrai.
du tout d'accord avec ça. Et donc oui, c'est clairement, c'est vraiment dommage. Les gens qui,
Bah...
ou avoir des enfants qui vont dire, ah, oh, regarde, c'est mon personnage préféré, tu vois. Moi, j'aime bien aller voir les films Disney au cinéma, rien que pour voir les enfants qui sont dans la salle et qui profitent du film, quoi.
Bah moi je suis d'accord avec toi pour le cinéma parce que je trouve que le cinéma c'est justement une expérience commune. C'est ce qui change de quand tu es tout seul chez toi sur le canapé. Le cinéma, tu vas voir un film en même temps que d'autres personnes autour de toi et on vit un moment. Bon, bien sûr, il y a des fois des mauvaises expériences,
Ah ben
mais.
bien sûr, ça si t'as celui derrière qui tape sur son fauteuil pendant tout le film, t'en profiteras pas, mais ça.
Oui, ou les parents qui laissent leur enfant se balader sur les côtés avec YouTube, le portable YouTube, la gosse qui regarde le portable YouTube avec le son.
Ah bon?
Ça, je l'ai
Ah,
vécu.
j'ai jamais vu ça.
Ben, quand je suis allé voir, je l'avais raconté sur le Discord, quand je suis allé voir, c'était Tortue Ninja,
Ah, la
l'animé.
dernière.
Il y avait je sais pas, il y avait un père, il était au fond, il avait deux enfants petits qui se baladaient le long du couloir, enfin entre les sièges, avaient le portable allumé, regardaient des
Oh,
vidéos.
lui.
Et j'en pouvais plus, j'avais
Ah ouais.
envie de. C'était horrible. Non, non, moi je voulais juste te dire que pareil, j'ai trouvé comme vous que c'était un chouette film. Moi, je trouve que c'était vraiment une super idée de faire vivre les personnages comme ça avec qui on a grandi. Et bon, les 5 émotions, tout ça, revoir des personnages vieux, moi Merlin, forcément, ça me parle, j'ai grandi avec. Robin des Bois, moi, tout ça, c'est des dessins animés qui me touchent. Et moi, je trouve ça toujours génial dans les dessins animés, quand, un peu à l'image de Toy Story, quand on ferme comme ça les portes d'un studio, que t'as où les jouets, où les personnages
C'est vrai.
qui vivent, en fait. Et c'est un peu ce qu'on se. Ce qu'on se dit quand on est enfant, quand on ferme la porte de la chambre, on a l'impression que nos jouets bougent. Et moi, je vois toujours ça avec des yeux d'enfant. Donc vraiment un chouette court-métrage. Et merci à eux d'avoir cette idée, parce que sinon, si on avait attendu Disney, on n'aurait
Ouais,
rien eu.
effectivement, t'as raison, ce côté, les personnages qui prennent vie, quoi. T'as l'impression qu'ils sortent de ces tableaux, que du coup ils existent vraiment, qu'ils se rassemblent quand tu allais te tourner, quoi. Ça, c'est vrai que c'était vraiment bien. Mais sinon, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a eu un vrai travail sur les voix. Donc il y a certains animateurs, enfin de
Oui.
doubleurs qui sont revenus redoubler le personnage. Mais bien sûr, bah, sur 100 ans, il y en a plein qui sont décédés, malheureusement. Et donc là, il y a eu un vrai travail, soit de reprendre des phrases dans des films pour récupérer les voix des vrais doubleurs, soit, et apparemment c'était le cas pour Robin Williams, pour le génie, de prendre des morceaux qui n'ont pas été utilisés dans le film. Donc c'est un peu comme ils avaient fait pour les IA dans l'épisode 9, du coup, récupérer des morceaux et tout ça, et en faire quelque chose, quoi. Ça, et apparemment la famille était d'accord et tout, c'est pas comme tout ce qui se passait avec la grève où ils faisaient ça dans le dos de tout le monde. Donc ça, je trouvais ça bien aussi, bah, ça permet de faire revivre certains personnages ou certains acteurs comme ça, tout en restant respectueux, quoi. C'est pas une IA qui a fait la voix à leur place, quoi.
Non, par contre, ce que j'ai pas vérifié, c'est parce que donc du coup je l'ai regardé en VO, quoi, mais ça n'a pas été doublé ça sur d'autres langues, non? Je crois que
Si,
c'est.
si, il me semble que si.
Je pense que si, mais ils ont
Ah
peut-être
oui?
moins fait l'effort en VF qu'en VO d'aller rechercher les doubleurs originaux, parce que là, en plus c'est pour deux mots, je voyais sur l'Instagram de Disney, d'ailleurs c'était assez chouette, ils ont mis une vidéo où ils montrent justement toutes les stars de ces dernières années qui sont revenues doubler leurs personnages, mais alors souvent c'est pour un ou deux mots, quoi, donc ça doit coûter cher, hein. Tu fais venir Idina Menzel sur place pour enregistrer deux mots, franchement, ils ont pas
Avec un
peur de
peu de
la
chance,
dépense,
il y en a
quoi.
qui le font. Enfin, je sais pas, quand t'es attaché à ton personnage, ça dépend qui, hein, j'imagine. Je serais pas étonné
Ouais, je sais
que
pas.
Josh Gad, il a tellement de contrats avec Disney, je sais pas si c'est vraiment pour dire 3 mois avec Olaf qui va faire chier son monde, je sais pas. Hein. Après, je sais pas, parfois
Ouais,
on n'est pas
mais
dans
au-delà de
les...
l'argent, Au-delà de l'argent, il faut le temps dans leurs agendas de stars. Mais bon, mais je trouvais ça chouette, là, si, si vous retombez
dessus. Il est tellement chez Disney, lui, que... dans un couloir. Josh, 20 fois, on a 2 mois fait enregistrer.
C'est ça.
Et puis peut-être le fait que ce soit 2 animateurs qui ont fait ça, justement, en dehors du cadre Disney, qui peut-être eux-mêmes ont contacté les doubleurs, ça passe mieux, parce que c'est pas...
C'est oh oui,
comme c'est un petit un truc de passionné, quoi.
Et sinon, aussi, dernière chose. Alors, j'ai pas eu l'info complète, mais je suis tombé là-dessus. La photo de fin, donc tous les personnages sont mis l'un à côté de l'autre et qui font cette fameuse photo, ils l'ont imprimée en lithographie et ils l'ont offert aux cast members. Mais je sais pas si c'est les cast members de DLP, si c'est tous les gens qui travaillent pour Disney dans le monde entier, j'ai pas compris. Je sais que ça fait beaucoup de monde, on est d'accord. Mais le fait est que beaucoup de gens l'ont reçu et que, comme d'habitude, beaucoup de gens n'en avaient rien à faire. Du coup, l'ont mis sur Vinted. Et du coup, il y a moyen de la voir. Donc, si vous êtes vraiment fan, vous adorez cette image, il y a moyen de la trouver sur Internet, moyennant un petit billet. Voilà, sachez-le, ça existe. On encourage la pratique ou on l'encourage pas, mais ça permet d'avoir un vrai souvenir de ça.
T'as vu quoi comme ça? Tu dis quoi
Ouais, j'ai vu, ça dépendait, hein, mais je crois que j'ai vu entre 75 et 200 €, quoi, selon les personnes, quoi. Donc,
mais ils devraient la vendre dans les parcs Disney, hein, franchement, ce truc. Ça
c'est toujours le problème, les cadeaux cast, c'est censé être une exclusivité pour les cast, donc je peux comprendre. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que les cast les revendent, ça, c'est toujours la même chose. Mmh. Après, c'est là une opportunité pour les autres passionnés, mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Les cadeaux, y avait eu pour Star Wars aussi des cadeaux qui ont fini sur Internet, parce qu'en fait, il y a des gens, ils travaillent sur un film, mais ils ont pas d'affect, en fait, avec le film ou avec... Et donc, voilà. Ça existe. Franchement, elle est très sympa. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas contre dépenser un peu d'argent, ça existe. Vous pouvez la trouver.
Ok, on a parlé du court-métrage. Maintenant, on va glisser tout doucement vers Wish. Et avant de rentrer dans le film en lui-même, on fera une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme ça, vous serez informés, parce que le film est encore assez récent. Mais voilà, Wish, c'est un film qui continue la longue tradition des Disney qui sortent, on va dire, aux alentours de Thanksgiving, en tout cas pour la fin d'année, pour les fêtes. Et on voulait un peu revenir sur cette tradition. Alors, je vais laisser la parole à Shane. Peut-être juste avant, est-ce que vous, à titre personnel, c'est quelque chose qui vous évoque, des souvenirs en famille, le fait d'aller voir un Disney au cinéma chaque année? Je sais que moi, par exemple, il y a une époque où c'était le cas, où régulièrement on allait voir le nouveau Disney pour la fin de l'année. Ça a un peu changé avec l'arrivée de Disney+, mais j'essaye quand même encore de faire ça avec ma sœur sur les derniers Disney qui sortent. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous continuez? Avec vos enfants, futurs enfants pour certains.
La tradition Disney, moi enfant, non, on m'a amené pas à voir au cinéma le Disney de Noël. J'ai pas de souvenir de ça. Je me rappelle pas avoir vu un Disney à Noël au cinéma. J'ai des souvenirs de Disney parce que par exemple l'émission Disney Parade qui passait, bon, elle passait tout le long de l'année, mais arrivées les fêtes de Noël, c'était toujours un petit peu le spécial avec les décorations et tout. On regardait ça enfant, c'était toujours des moments, c'est des jolis souvenirs, des bons moments. Et après, en devenant parent, par contre, le souvenir que j'ai surtout, c'est que c'est surtout sur la Reine des Neiges que je suis allé avec mes enfants le 24 décembre, on était allé justement, voilà, à la Reine des Neiges. Et j'en ai un excellent souvenir parce que la Reine des Neiges, moi j'avais pris une claque en regardant ce dessin animé, mes enfants aussi, mon fils avait aimé, ma fille elle avait adoré, elle reproduisait tous les gestes de Elsa. J'ai un souvenir chez mes parents ils ont un escalier en bois qui monte à l'étage, et elle faisait le même geste qu'Elsa quand elle gèle l'escalier là, et elle le faisait, c'est surtout mon souvenir du film de Noël, c'est La Reine des Neiges, voilà. Et c'est pas le pire souvenir, La Reine des Neiges.
Ça va, t'as pas été traumatisé par la chanson, parce qu'il y a tellement de parents qui s'en sont plaints.
Non, moi, j'ai toujours un affect sur cette chanson, parce que ça me rappelle ma fille, forcément. Donc, voilà. Et toi, Shane?
J'ai pas vraiment de souvenir un lien personnellement entre Disney et Noël. D'ailleurs, Noël, c'est pas la fête qui a le plus de, qui compte le plus pour moi. Mais par contre, ça m'évoque un petit rêve que moi, j'ai pas encore réalisé. C'était le fait d'aller voir un film au Grand Rex à Paris. Je sais pas si on en présentait le Grand Rex. C'était cette salle de cinéma mythique dont la grande salle peut accueillir, je crois, 2800 personnes. C'est quand même vraiment beaucoup. C'est là qu'a lieu quasiment toutes les avant-premières parisiennes des grands films. Et à dire, c'est quoi le lien avec Disney? Mais c'est que depuis, j'ai cherché 1954, à la période des fêtes, il y a ce qu'ils appellent la féerie des eaux. C'est avant le film, il y a un spectacle de jets d'eau sur la scène qui a lieu en fait à la période de Noël. Et on va en discuter, Noël souvent ça rime avec Disney, et donc traditionnellement c'est souvent le film avant la séance du film Disney qui a ce spectacle. Et du coup je me suis toujours dit, un jour j'irai au Grand Rex voir ce spectacle avant un film Disney. Mais pour l'instant je l'ai jamais fait. Et actuellement, pour cette année, c'est bien le cas. Si vous allez voir Achat au Grand Rex, enfin Wish, vous aurez certaines heures, hein, il faut regarder sur Internet, ça je ne sais pas vous dire, mais vous aurez ce spectacle. Donc ça, c'est un peu mon petit rêve à réaliser encore.
Ah, ça va être sympa à vivre, oui.
Mais j'ai été au Grand Rex, mais j'ai jamais été voir un film. Clem n'est pas là, donc je vais faire l'anecdote. Voilà, c'est pour toi, Clem, celle-là, l'anecdote qui sort de nulle part. Il y a quelques années, j'étais à Paris avec ma femme, qui en fait passait, qui participait à l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2.
Ah, trop chouette.
Et mais du coup, je pouvais, en fait, l'enregistrement ça dure des plombes en fait, parce qu'ils enregistrent, je sais pas combien d'émissions à la chaîne. Et donc j'avais décidé de pas aller parce qu'en fait, enfin de pas être dans la salle ce jour-là, parce qu'après j'ai envie qu'on m'interroge, c'est la télé, c'est vraiment pas mon truc. Et donc je me suis baladé dans Paris en attendant, et j'ai fini au Grand Rex notamment, où il y a moyen de visiter le Grand Rex, mais en mode musée pratiquement. Enfin, c'est tu peux visiter l'arrière boutique si tu veux du Grand Rex. Et je me suis dit, allez, soyons fous, je vais faire ça. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est une visite automatisée. C'est-à-dire que t'as personne qui va te dire quand aller, quand passer d'une salle à l'autre. En fait, ce sont des portes qui s'ouvrent toutes les X minutes et tu rentres. Une fois que la porte se ferme, tu fais un truc dans une salle, puis la suivante, etc. Et j'avais la particularité d'être tout seul à la visite à laquelle j'étais. Donc j'ai fait une visite d'une heure dans le Grand Rex tout seul, avec des trucs interactifs du style vous devez assister à un tournage spécial, il y a un tremblement de terre, donc tu as le sol qui vibre sous tes pieds, on te montre comment on fait un film, comment on fait du doublage, du coup on t'encourage à toi-même doubler des scènes célèbres de films, etc. Et donc j'ai fait ça tout seul, c'était très à la fois drôle mais aussi glauque, notamment dans le moment où tu passes dans un ascenseur qui est derrière l'écran de la salle principale. Ascenseur vitré. Or, moi, je suis à la fois claustrophobe et je suis sujet au vertige. J'ai pas passé un bon moment.
Ah oui.
À ce moment-là. Et en fait, spoiler, ça se termine par un film qu'ils ont tourné de toi pendant que tu visitais. Sauf que moi, je le savais pas forcément.
Et je me suis retrouvé.
Et donc, à la fin, tu t'assis dans une petite salle et on te projette ton histoire de ta visite, en fait. Sauf que, comme j'étais tout seul, et que je me suis amusé comme un débile, notamment dans la salle du doublage, à faire tous les doublages de tous les films. En fait, c'était tous les films d'amour où il fallait dire « je t'aime ». Et du coup, moi, j'ai fait le doublage de tous les films en faisant, tu vois, des « je t'aime », tout truc. Et puis à un moment, je faisais le « I know », tu vois, tout seul. Et à la fin, tu vois le film et tu te dis « Ah ben, j'ai vraiment l'air con, en fait. Hein. Donc voilà, j'ai pas...
Autour de toi, voir s'il y a personne qui voit.
J'espère qu'ils effacent les cassettes après quelques temps, tu vois, des enregistrements.
À mon avis, ils sont obligés.
Et qu'il n'y a pas...
GDPR,
parce que sinon, il y a le best-of, je suis sûrement dedans.
Le bêtisier.
Le bêtisier, à la fin de l'année, ils regardent... Bah donc voilà, comme ça, si vous le savez, il y a moyen de visiter le Grand Rex et de passer un bon moment.
Ah ouais, bah merci, je savais pas du tout.
Voilà, c'était l'anecdote Clem de cet épisode. Mais donc voilà, après du coup, nos traditions à nous, en fait, on a voulu voir si cette tradition des Disney de Noël était vraie. Est-ce que c'est une impression qu'on a, ou bien vraiment... il y a une volonté de la part de Disney de sortir ses films à Noël. Du coup, j'ai fait un petit devoir, j'ai regardé, et on va voir ensemble s'il y a vraiment une tradition de films Disney de Noël, ou bien c'est juste une croyance collective. Donc, pour ça, on va remonter au tout début. Le premier grand film d'animation, c'est bien sûr Blanche-Neige, qui sort le 21 décembre 1937. Au Carté Circle Theater de Los Angeles, avant de voir sa sortie étendue dans d'autres cinémas en janvier. Bah, on peut dire voilà, on a déjà la réponse. Le premier film Disney sort le 21 décembre. Si ça, c'est pas pour Noël. Mais en fait, non. Parce que les films suivants, Pinocchio sort en février, Fantasia, Dumbo et Bambi sortent respectivement en novembre, octobre, août. On voit donc que c'est très varié, il n'y a pas de plan défini au départ. Les films sortent quand ils sont prêts, ils ne sortent pas spécifiquement à Noël. Et d'ailleurs, pendant les deux décennies qui suivent, pas de changement à ce niveau-là. C'est vraiment des périodes très différentes. Il y a tous les mois de l'année qui passent. Avec une petite exception, Merlin l'Enchanteur sort le 25 décembre, vraiment le jour de Noël. Et il ouvre peut-être ce qu'on pourrait dire la première période de Disney à Noël avec les films suivants, Le Livre de la Jungle, Les Aristochats, Robin des Bois, qui sortent effectivement tous plus ou moins en fin d'année. Pas une date précise, mais disons octobre-décembre. Donc on pourrait dire, ah, ça y est, maintenant c'est parti, ça va vraiment être à chaque fois. Eh ben, de nouveau, c'est pas le cas. Tous les films suivants sortent pendant l'été, ou proche de l'été. Donc, de nouveau, c'était une fausse croyance, à ce moment pour cette période. En 1988, avec Oliver et compagnie, et ce jusqu'en 1992, Aladdin, c'est de nouveau une période où là, vraiment, on voit mi-novembre, comme tu disais, Emily, autour de Thanksgiving à peu près, effectivement, les 4 ou 5 films de cette période-là sortent tous à cette période-là, effectivement. Deuxième période où on pourrait dire qu'il y a une tradition avec ces films de Noël.
Je te coupe parce qu'en fait, on parlait des traditions de Noël. Bah, Oliver et compagnie est le premier dessin animé que j'ai vu au cinéma avec mes parents. Donc je rajoute sur la tradition de Noël, j'ai vu un autre Disney à Noël.
Mais attention, voilà.
Je ne me souvenais pas que c'était cette période.
Est-ce qu'il est sorti chez nous à Noël? Ça, ouais, je vais en parler un peu plus tard.
Ah d'accord, ok.
Spoiler. Hein.
j'ai pas les trop.
Tu anticipes. Et du coup, en fait, de nouveau, Rebelote, période 1994, Le Roi Lion, 1998, Tarzan, tous les films sortent en juin, et pas du tout en décembre. Et après, on voit une alternance. Pendant 4 ans, au tournant des années 2000, c'est parfois en juin, parfois en décembre, en novembre-décembre, il y a une alternance. C'est vraiment, pour moi, avec La Planète au Trésor, donc en 2002, qu'on peut voir vraiment que s'installe cette idée que les films Disney sortent vraiment en novembre, décembre. Sur les 20 films qui sont sortis depuis, donc depuis 2002 jusqu'à 2023, il n'y en a que 5 qui ne sont pas sortis à cette période. Et tous, certains pour une bonne raison. Ouais. Parce que donc les 5 films, et certains ont bidé justement peut-être à cause de ça. Parce que les 5 films, ce sont La Ferme se rebelle, Bienvenue chez les Robinson, Winnie l'ourson, 3 films qui n'auront pas laissé un souvenir impérissable au box-office. Ensuite, Zootopia, mais qui, à mon avis, a raté son créneau, en fait, parce qu'il est sorti en mars 2016, et il n'y a pas eu de Disney en fin d'année 2015. Donc je me demande si là, il n'y a pas eu un souci. Ils ont pris
Ah,
plus de
parce que c'est
temps.
bizarre une sortie en mars.
Voilà. Et enfin, Raya, en 2021, du coup, parce que Covid, il n'est pas sorti en 2020. Il est sorti un peu à différentes dates selon les pays. Donc,
Ouais,
ça
Disney
c'est.
Premier
Voilà,
Access.
il y a eu tout ce machin-là. On va pas revenir là-dessus. Et donc, on pourrait se dire. En fait, ça fait 20 ans, du coup, que nous avons quasiment un film à Noël chaque année. Mais ce serait trop simple de s'arrêter là. Et donc, j'ai voulu creuser un peu plus loin. Et la première chose que j'ai faite, c'est comparer avec le calendrier Pixar. Parce que bon, ça, il y a quand même une corrélation entre les films Pixar qui ont quand même été distribués par Disney depuis le début, après rachetés. Et donc, j'ai regardé. Et on se rend compte qu'en fait, si on compte les Pixar, il y a toujours eu un film dans la période de Noël, depuis cette période de 2002, La Planète au Trésor. Et donc les années où il n'y avait pas de film Disney, il y avait en fait un Pixar. Les Indestructibles en 2004, Arlo en 2015, donc à la place de Zootopie, Coco en 2017, et enfin Soul directement sur Disney+ en 2020. Et donc on voit que là, bah, peut-être que aussi dans l'imaginaire collectif, les Pixar, c'est un peu apparenté au Disney. Donc, en fait, on a vraiment un film depuis 20 ans à Noël. Mais j'ai un deuxième élément pour voir si c'est vraiment une tradition ou pas. Et c'est Cédric m'a anticipé en parlant de la sortie des sorties françaises et belges, du coup. Ici, toutes les dates que je vous ai données, ce sont les sorties américaines. Or, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les films sortaient pas en même temps aux États-Unis ou chez nous. Parce que souvent, en France et en Belgique, il y a une semaine de presse, c'est la même chose. Par exemple, Achat est sorti une semaine avant en Belgique, mais grosso modo, c'est quand même toujours la même période. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est en 94, avec Le Roi Lion, que pour la première fois, à partir de ce moment-là, que c'est la même année, globalement, que le film Disney sort aux États-Unis et en Europe, disons. Pas toujours avec la même durée, parfois c'est un mois après, parfois c'est 6 mois après. Avant c'était parfois 1 an, 5 ans, selon certains, avec la guerre, etc. Mais donc, Le Roi Lion, c'est un peu le tournant. Là, on voit que les sorties se rapprochent. Et du coup, j'ai remarqué, en faisant la recherche, que souvent, le décalage faisait que chez nous, il arrivait à Noël. Parce que, par exemple, pour la période du Roi Lion jusqu'à Tarzan, il sortait en juin aux États-Unis, mais il sortait à Noël chez nous. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que les films Disney sortent à Noël.
Le Roi Lion est sorti à Noël là, chez nous,
C'est
parce
ça.
que j'ai le souvenir d'avoir vu l'été, moi.
Ah, bah écoute, selon ce que j'ai retrouvé, c'était Noël. Maintenant, tu peux vérifier. On ne sait jamais que je me suis trompé, hein. Mais moi, j'ai fait un décompte, et selon ce que j'ai trouvé, hein, sur les 62 classiques d'animation qui sont sortis depuis La Blanche-Neige jusqu'à Wish, 27 sont sortis en fin d'année aux États-Unis. Tandis qu'ils sont 42 à être sortis entre mi-octobre et le mois de décembre en Europe, France, Belgique,
Ah
la France.
ouais.
Et donc, en fait, la tradition des films de Noël, c'est pas américain, c'est chez nous. C'est une volonté, notamment dans les années 90, de décaler la sortie et de la mettre à Noël. Voilà, c'était pour voir un peu si c'était vraiment une idée reçue ou en fait une vraie tradition. Je pense que 42 sur 62, c'est plus du 2/3, sont effectivement sortis plus ou moins à la période des fêtes entre mi-novembre et Noël.
Ouais, j'ai regardé effectivement le Roi Lion, c'était en novembre.
Ah
Pourtant,
voilà.
je l'ai vu en été, j'en suis quasi sûr, parce
Après,
que
si ça tombe, il est resté tellement longtemps à l'affiche, je sais pas.
j'étais sur mon lieu de vacances à ce moment-là, je me rappelle très bien, donc c'était en été.
T'es sûr que t'étais pas au ski?
Non, non, non,
Et
en fait, non, c'était pas...
il y a quand même autre chose aussi, je pense, qui augmente cette impression. Enfin, je sais pas en France, mais il me semble que c'est le cas aussi. Mais des chaînes comme les chaînes, notamment TF1, rediffuse abondamment les dessins animés pendant la période de Noël, quand ce sont les vacances scolaires. Du coup, pour aussi, je pense, beaucoup d'enfants, t'as pas école, tu regardes des films à télé, notamment des dessins animés, notamment des films Disney. Peut-être que ça joue
Ouais, c'est
aussi dans
sûr.
l'idée. Est-ce que c'est pas genre on voit le Disney d'année d'avant qui sort un an à peu près, un an après aussi à la télé.
Mais ça, dans l'esprit collectif, ça joue parce que surtout la génération d'avant, qu'on n'avait pas les plateformes de streaming.
Bien sûr.
Moi, je me rappelle petit, j'attendais Noël, j'adorais les vacances de Noël parce qu'ils diffusaient plein de films et de dessins animés tous les jours. Je regardais le programme avec M6 et tout ça. Et en fait, beaucoup de certains films, je les assimilais à un film de Noël parce que il les repassait toujours à cette période-là, mais ils n'étaient pas sortis, ou ce n'étaient pas des films de Noël, ou ils n'étaient pas
du tout sortis à cette là.
Oui, si, oui, si, c'est exact.
Si, si, c'est un film de
Maman,
Noël.
J'ai raté complètement... l'avion.
Ouais.
Ouais. Non, mais Maman, j'ai raté l'avion, c'est un film de
ça
Noël.
Ça se passe à Noël, on est d'accord. Mais c'est vrai que tous les ans, il repasse à ce moment-là.
Voilà. Willow. Moi, Willow, pour moi, c'est un film de Noël. Alors, je sais même pas quand c'est qu'il est passé.
D'accord.
Il passait tout le temps, la période de Noël.
Bon, en tout cas, Shane, je suis impressionné.
Ouais.
Je suis très impressionné par cette recherche.
Ouais.
Merci.
Bravo.
Où est l'étoile qui saura me guider? Mes peurs, je les oublierai en chemin. Si ce bel espoir peut me faire avancer, laissez-moi croire qu'il fera beau demain. Moi, je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux. Moi, je fais.
Alors, on va parler un peu de Wish, on va donner chacun, je propose, notre avis sans spoiler, et puis on passera à la partie spoiler avec un petit générique pour ceux qui ne voudraient pas se faire spoiler, qui n'ont pas encore vu le film, d'ailleurs, dépêchez-vous, hein, c'est pas ce que vous attendez. Donc, Wish, ou en français, Wish 2.achat et la bonne étoile, puisqu'on aime bien les titres à rallonge, est un film sorti le 22 novembre dernier en Belgique et aux États-Unis, le 29 novembre en France, pourquoi une semaine plus tard ? Les mystères du cinéma, réalisé par Chris Buck, qui a notamment co-réalisé La Reine des Neiges, dont vous avez déjà dû entendre son nom, et Fawn Vierasundhorn, dont c'est le premier film en tant que réalisatrice, écrit par Jennifer Lee et Alison Moore. Jennifer Lee qu'on ne présente plus, hein, c'est l'autre moitié du duo qui est derrière La Reine des Neiges, qui est maintenant directrice créative des studios Disney, c'est ça son titre ?
Oui, oui.
Ou juste directrice des studios Disney, plus, ouais, d'animation ?
Les studios d'animation, c'est la big chef.
C'est la boss. C'est la boss de l'animation. Donc oui, on retrouve la Dream Team derrière Frozen, Chris Buck, Jennifer Lee, aussi Peter Delveco à la production, qui était aussi derrière La Reine des Neiges, et qu'on voit d'ailleurs dans le reportage sur La Reine des Neiges 2, je sais pas pourquoi son nom, hein, lui, m'avait marqué. Le film combine une animation, alors on y reviendra, c'est de l'animation 3D par ordinateur, mais qui donne un effet 2D. Je sais pas bien comment la décrire, c'est assez particulier. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est... On y reviendra.
En fait, je crois qu'il y a les fonds qui sont en 2D et les personnages en 3D, en fait.
C'est ça, ouais, les fonds sont ont un effet de dessin.
Ils sont crayonnés, en fait. Ouais.
C'est ça, okay. Alors que les personnages sont crayonnés. Plus modernes, effectivement. Qui donnent, enfin, si on peut déjà le dire, moi j'ai trouvé que ça donnait un aspect jeu vidéo. Ça m'a fait vraiment penser aux jeux vidéo de l'époque PlayStation 2, 3, notamment les jeux vidéo japonais, RPG. Où ils utilisaient abondamment cette technique, je pense par exemple pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo à Dragon Quest, les Rogue Galaxy, vraiment ce dessin devant lesquels des personnages sont animés. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est un rendu un peu spécial, faut le dire. Ça plaira pas à tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que plus le film avance, au plus on s'y fait et ça donne quand même relativement bien. C'est mon avis.
Moi, je trouve que c'était quand même assez inégal.
C'est vrai.
Il y a des moments, et surtout entre certains personnages, il y a certains personnages que j'avais l'impression que c'était plus travaillé que d'autres. Par exemple, à Asha, bon, on voyait qu'ils ont fait quand même attention, mais par exemple, quelques-uns de ses amis, je trouvais ça... triste des fois sur certains personnages, je sais plus le nom d'une de ses amies.
Oui, il y a beaucoup de noms, j'avoue que j'ai pas tout retenu non plus.
Ouais, j'ai pas retenu. Qui a un rouge, je crois, elle a pas une robe rouge. C'est celle qui
oui,
a...
avec ses petites lunettes là, je connais pas son nom.
Ouais, ouais. Je trouve que elle, par contre, c'était assez pauvre. Mmh. Et pareil sur les fonds, des fois, ouais, je trouve que c'était assez inégal. C'était pas. Voilà.
Bah, moi, j'ai bien accroché. Mais je reconnais que ça plaira pas à tout le monde. Ça peut perturber.
Et surtout quand on voit certains films d'animation comme les derniers Spider-Man ou quoi, qu'on voit la qualité qu'il y a, bah, je trouve quand même. Alors que je crois que le dernier Spider-Man a utilisé un petit peu cette technique aussi. Et je trouve quand même il y a un sacré écart entre les deux.
Mmh. Ouais, je comprends ce que tu veux.
Alors, du côté chansons, c'est des noms qui, personnellement, ne me disent rien. Les chansons étaient composées par Julia Michaels et Benjamin Rice, et la bande originale a été composée par Dave Metzger.
Mais j'ai regardé, Julia Michaels, elle avait déjà chanté dans Ralph Breaks the Internet, le deuxième.
Chanté ou composé?
Les deux. Parce qu'en fait, elle chante aussi. Donc, c'est pas une totale inconnue de Disney, mais je me souvenais pas. Hein. C'est juste en tapant son nom que je l'ai vu, je me dis, ah tiens.
Donc, oui, voilà. C'est ça, c'est dans le sens, c'est pas Alan Menken ou Lin-Manuel
Miranda. Non, c'est ça. Voilà. Jingle.
Jingle.
Hi, I'm Lin-Manuel Miranda.
Ouais, les chansons, bon, on y reviendra dans la partie spoiler. Moi, j'ai eu un problème sur la VF, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vu le film en VF. Et en sortant, je me suis dit, le seul point négatif, c'est les chansons. Je les trouve trop oubliables, de un. Il y en a qu'une ou deux qui m'ont vraiment marqué. Les autres, après, j'ai mis une réserve. C'est qu'en sortant d'Encanto, j'ai dit la même chose. Or qu'aujourd'hui, tous les jours, je chante Ne parlons pas de Bruno. Mais je sais, mais il fallait que je le revoie une deuxième fois. Maintenant, voilà, je kiffe, on est d'accord. Mais donc voilà. Et par contre, après, j'ai écouté la bande originale en anglais. Et ça a résolu mon deuxième point, qui est que j'ai trouvé la traduction française pas top. J'ai trouvé, en écoutant la VF d'abord, j'ai trouvé que souvent les paroles étaient très littérales, c'est-à-dire ça manquait de subtilité, ça manquait de finesse, c'était souvent très « je vais faire ça parce que je suis pas content », tu vois, très, très plat, quoi, dans les paroles. C'est ça, un peu pauvre. Ce que je n'ai pas retrouvé dans la version en anglais, bon, il faut dire que aussi les paroles en anglais, souvent j'ai l'impression qu'on est habitué à du plus littéral, mais voilà, les paroles en anglais, j'ai bien accroché, les voix aussi. En français, j'ai trouvé que ça sonnait un peu concon, quoi, un peu plat dans la traduction. Donc voilà, il y en a une ou deux que j'aime bien. Bah, la This Wish que tout le monde a déjà entendue, je la trouve très belle. Les autres, j'ai pas accroché au premier abord. Après, peut-être que comme Encanto, en le revoyant une deuxième fois, je vais bien accrocher.
Ah, moi j'ai vraiment bien aimé, du premier coup. Alors, je l'ai vu en VF aussi. Je les ai trouvées très entraînantes quand même, pas toutes, mais une bonne partie quand même sont assez entraînantes. Le rythme change fort d'une chanson à l'autre, c'est pas du tout il y a sept chansons, les sept sont vraiment différentes. Enfin, il y en a une, c'est une reprise, mais donc il y a six chansons qui sont vraiment différentes. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Donc globalement, j'ai vraiment bien aimé. Après, j'ai écouté en anglais aussi pour comparer. J'ai pas comparé les paroles, mais au niveau ambiance. C'est assez fidèle. Maintenant, je suis d'accord avec le côté un peu plat. En anglais, ça sonne mieux. Et les harmonies sont plus belles. T'as l'impression qu'il y a plus d'envolée, en fait. C'est plus dynamique, là, en anglais. J'ai l'impression, notamment les quand ils chantent à plusieurs, c'était plus, enfin, y a rien à faire. Ça sonnait mieux. Les harmonies étaient meilleures. Il y avait plus de, le frisson, on va dire, quand tu l'écoutes. Donc, peut-être qu'il y a eu à ce niveau-là un petit downgrade, disons.
La musique, c'est l'une des choses que peut-être j'ai préférées dans le film. J'ai plutôt bien aimé. Elles m'ont assez emballé. Malheureusement, pour eux, je pense qu'ils... qu'elles vont pas être aussi, ils auront pas un tube comme Bruno, comme on revient à la Reine des Neiges ou comme ça, donc ça c'est le problème parce que.
Et tu l'as vu en VF aussi, hein, du coup.
Moi je l'ai vu en VF, oui.
Donc on l'a tous vu en VF, ça se niveau.
Je l'ai pas écouté en VO, et ça je trouve que le problème c'est qu'ils ont pas réussi à trouver une musique comme ça qu'on pourrait retrouver comme ça dans plusieurs années. J'ai du mal à vraiment ressortir une musique qu'on n'oubliera pas, quoi. Et c'est justement parce qu'ils fêtaient leurs 100 ans, ben, je trouve que c'est le petit le petit problème du film. Mais sinon, en le regardant, pareil, il y a quelques morceaux qui m'ont quand même assez transporté. Bon, là, comme c'est on est à la partie sans spoiler, je vais pas dire lesquels. Mais
plus tard.
ouais, mais oui, la musique, c'est l'un des une partie qui m'a le plus plu.
Voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, enfin moi je disais oubliable. En fait, le vendredi je suis allée voir Wish et le samedi soir j'avais le concert, la Disney 100 dont je parlais. Et je me suis fait la réflexion pendant le concert, voilà, c'est un mélange où des fois ils prennent une chanson, ils la chantent en entier, et des fois ils prennent un film et ils vont te faire un medley de ce film. Et tu réalises qu'il y a quand même des films Disney où toutes les chansons sont cultes. Typiquement La Belle et la Bête, bah, y a énormément de chansons cultes dedans, il n'y a pas que Histoire éternelle que tout le monde retient, la chanson d'ouverture, la chanson de Gaston, enfin voilà, je ne vais pas toutes les refaire. Voilà, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? Oui, Vaiana aussi, il y a plusieurs chansons qui sont pas mal cultes. Dans Encanto, t'en as plusieurs. Si tu prends, bah, même dans les années 90, Aladdin, toutes les chansons d'Aladdin son culte, celle du Roi Lion aussi. Ici, pour moi, c'est pas une bande originale culte, déjà. Et puis, même la chanson principale, ce qu'on pourrait appeler la chanson principale, This Wish, qui est vraiment la, moi, ce que j'appelle la chanson de princesse, c'est la I Want Song, c'est la chanson de l'héroïne, tout ce que tu veux. Elle est jolie. Je sais pas si elle est si catchy que ça, quoi. Si les gens vont vraiment retenir la mélodie et la garder en tête. C'est, pour moi, c'est pas comme une Vaiana, qui est peut-être l'exemple le plus récent.
Non, ouais, on en parlera après. Est-ce que les gens vont déjà aller voir le film? Parce que c'est pas gagné pour l'instant.
Ouais, il y a ça aussi.
Mais moi, je pense que c'est justement l'un des marques, comment on appelle ça, de symboles qui montrent que Disney n'est pas au mieux en ce moment. Et même par rapport, tu dis Encanto, mais ils n'arrivent pas, alors que c'est l'une des marques de fabrique de Disney, de sortir des musiques qui de suite marquent les esprits. Et ces derniers temps, ils n'y arrivent plus. Ça devient des musiques qu'on aime bien peut-être écouter, parce qu'il y a des actions sympas, mais qui deviennent banal. Enfin, c'est.
Ouais. Et typiquement, pour les 100 ans, est-ce qu'ils auraient pas pu, parce que, enfin, j'ai rien contre les compositeurs là, je pense qu'ils ont fait un chouette travail, mais pour les 100 ans, ils auraient peut-être pu se payer un Alan Menken ou un Lin-Manuel Miranda. Hein. Alors, je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, peut-être qu'ils n'étaient pas dispo ou truc, ou qu'on leur a pas demandé, mais j'aurais trouvé normal, enfin en tout cas logique, qu'ils prennent un grand nom de la composition
pour faire le film des 100 ans. C'est vrai que c'est surtout quelqu'un de la maison qui a l'habitude. Ici, ouais, c'est voilà, des gens qui s'est déjà prouvé. Ont un petit peu travaillé pour Disney, mais c'est pas les pontes du studio. Ouais. Quoi.
Ou même t'aurais pu prendre les gars qui ont fait Greatest Showman, là, Pazek
oui, et oui, Paul, tu vois, duo, là,
des noms comme ça, quoi, des gens qui ont prouvé qu'ils savent écrire des tubes pour le cinéma.
Ouais.
Et parce que, ouais, moi, à des moments, même, je trouvais, alors, je le répète que j'ai trouvé, je les ai bien aimés, mais je trouvais que ça faisait comédie musicale, mais pas comédie musicale Disney, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ça faisait comédie musicale française à la place de Broadway, en fait. C'est ça que tu veux dire.
Ouais,
et paf. Non, gratuit.
Non, mais même si c'est comédie musicale de Broadway, si vous voulez, mais ça faisait pas très Disney, en fait.
Voilà. C'est, par moment, oui.
Ouais.
Mais on peut peut-être enchaîner sur le casting, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la différence, enfin de l'inégalité, je trouve, entre la VO et la VF. Joli casting des deux côtés quand même. Donc à la VO, on a Ariana DeBose, que j'adore, qui fait la voix de Asha, Chris Pine qui fait la voix du Roi Magnifico, donc jolie tête d'affiche quand même. Ariana DeBose, elle a vraiment la cote en ce moment. Alan Tudyk qui fait la voix de Valentino, Victor Garber. Alors j'ai pas noté quel personnage il faisait, mais j'ai noté quelques noms. Victor Garber, vous savez, c'est le gars de Titanic.
Oui, c'est le capitaine.
Le majordome, je crois.
Non, c'est
le capitaine.
C'est le capitaine. Mais pour moi, c'est moi.
Je suis pas sûr.
Ah, pour moi, c'est. Ah, non, c'est celui qui dit fuyez, hein. prenez les bateaux.
Oui, voilà.
Ouais, c'est un des lieutenants. Non, je sais plus. Mais c'est drôle parce que pour moi, ça restera toujours. C'est le père de Sidney Bristow dans Alias, tu vois.
Ah.
Ça c'est vrai, le père de Jennifer Garner.
Ouais, et alors j'ai noté des apparitions assez sympas, je pense que c'est plus des, bon, je sais pas si on peut dire un caméo vocal, mais enfin des petites apparitions de Heather Matarazzo, c'est celle qui joue Lily, donc la meilleure copine dans Journal d'une princesse, de Nassim Pedrad qui est celle qui faisait la meilleure copine de Jasmine dans Aladdin. Dahlia, j'avoue, j'ai dû aller chercher son prénom parce que j'avais complètement oublié. Oui, dans le live action, on précise. Parce que je crois que dans le dessin animé, elle n'a pas d'amis. James Monroe Iglehart, qui est quand même aussi un grand nom de Disney, c'est le gars qui a joué le génie originel de Broadway dans la comédie musicale Aladdin. Donc je ne sais pas quel personnage ils font, je pense que c'est plus de l'ordre de l'apparition qu'autre chose. Mais je trouvais ça sympa à souligner, c'est quand même des gens qui font partie de la maison Disney. Quoi.
Oui, et Ariana DeBose, qui pour l'instant a un succès dingue. Pour les gens qui ne vieillissent pas, enfin, qui sait, elle est devenue notamment connue en étant dans l'ensemble de Hamilton, et puis elle est devenue la nouvelle Anita dans West Side Story de Spielberg, et elle a un succès dingue, elle est en tournée tout le temps, c'est elle qui présente les Tony maintenant à Broadway, donc enfin ils ont cherché quelqu'un qui pour l'instant a un succès dingue, qui a une voix incroyable, c'est pas Madame Tout le Monde.
Ouais, c'est clair. Elle a joué dans The Prom aussi avant, quand elle était un peu moins connue, qui est très sympa. Alors, du côté de la VF, donc c'est Océane de Montis qui fait la voix de Asha. J'ai vu qu'elle avait notamment joué Nala dans le spectacle Roi Lion et les rythmes de la Terre à Disneyland Paris, donc pour donner une idée de la voix aussi. Lamber Wilson qui double le roi Magnifico. Isabelle Adjani qui double la reine Amaya. Gérard Darmon qui fait Valentino, la chèvre. Je l'avais pas reconnu, honnêtement, j'avais pas reconnu ça.
Non, moi non plus, j'avais pas tilté. C'est après...
Alors, que serait un film Disney sans Donald Renew?
C'est le Alan Tudyk français. Hein. Alan Tudyk est dans tous les films Disney. Et maintenant, Donald Renew est dans tous les versants.
Ouais, exactement. Bon, il fait pas la chèvre. Hein. Donald Renew, il fait Simon, un des amis de Asha. Je vous avoue, j'adore sa voix, hein, Donald Renew, mais
on commence
j'ai l'effet
à
Richard
trop.
Darbois. Ouais, c'est ça. C'est l'effet Richard Darbois. C'est que vrai. Tu l'entends, tu fais « Ah, c'est lui !»
Je suis d'accord. Mais bon. T'as l'impression que quoi que tu regardes maintenant en VF, tu as Donald Renew.
Obligé. Et alors, Aurélie Konaté, je ne sais pas si vous voyez, c'est la fille qui a fait l'Astarac et puis qui a joué dans Camping Paradis aussi pour quelques saisons. Moi, c'est de là que je la connais, en tout cas. Je regarde Camping Paradis et il n'y a aucune honte à ça. qui joue... Alors, Al, c'est quoi? C'est la meilleure copine d'Acha?
C'est
je
aussi
pense.
Une des copines,
ouais. Une des copines d'Acha, ok.
Oui, effectivement, tu disais Océane de Monti, j'ai regardé. Elle a travaillé pendant plusieurs années à Disneyland Paris parce qu'elle a utilisé Nala... Mais elle a aussi été dans La Fabrique des Rêves et dans Jungle Book Jive. Et après avoir aussi fait d'autres comédies musicales en France, j'ai lu que c'était apparemment elle qui jouait maintenant, ou qui va jouer, je sais, pour la prochaine version, Le Roi Lion, mais à Mogador, donc la vraie comédie musicale. J'ai pas compris si c'était elle maintenant, ou si ça allait être elle. Donc ça, j'ai pas trouvé l'info. Mais donc, elle est quand même passée de la version DLP à la version Mogador. Progression.
C'est chouette. Bah, de manière générale, c'est une bonne idée d'aller chercher dans le pool d'artistes de Disneyland Paris, parce que si tu cherches des voix de princesse, clairement, il faut aller de ce côté-là. Hein. Et je trouve qu'elle fait un beau boulot sur la VF, je trouve. Enfin, parce que bon, c'est une chanteuse, donc le chant est super chouette, mais même toute la partie parlée, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est pas tant la VF, moi, qui m'a dérangée, parce que j'ai trouvé que les voix étaient bonnes, je pense que c'est vraiment la traduction. Ouais. On n'a même pas parlé de l'histoire de Wish, on va faire la version un peu sans spoiler. Donc, c'est un film, donc clairement on est sur les 100 ans de Disney, donc ils ont choisi un thème qui revient un peu aux origines, qui est celui de l'étoile des souhaits, puis les vœux de manière générale, hein, le rêve, la magie, tout ça. Et donc le film nous emmène dans le royaume de Rosas, qui est un royaume fictif où les gens s'habillent un peu comme au Moyen-Âge d'ailleurs, c'est assez marrant. Et on retrouve Asha, c'est une jeune fille qui postule ce jour-là pour devenir l'apprentie du roi. Le roi Magnifico, dont on a parlé, qui est un grand magicien et qui a le pouvoir de protéger les vœux de tous les citoyens du royaume et d'en exaucer quelques-uns de temps en temps. Et je vais m'arrêter là parce que
oui,
ça peut commencer à se
brûler.
Hein, c'est déjà pas mal.
Juste pour la petite anecdote, ce qui est drôle, c'est quand tu dis le royaume fictif de Rosas, c'est que moi, quand j'ai commencé à regarder le film, du coup, ça m'a pas donné du tout cette impression parce que déjà, le film se passe en bord de la Méditerranée.
Oui,
donc forcément, quoi
incroyable.
Que je
connais. C'est vrai.
Et Rosas, c'est une ville qui est pas loin de chez moi, qui est du côté espagnol et qui est en bord de la Méditerranée. Et alors on dit encore Rosas. Au niveau de l'orthographe, ça a changé parce que Rosas c'est un héritage franquiste. Ça s'écrit avec E à la place du A maintenant parce que c'est du catalan Rosas. Et mais on dit encore Rosa, c'est parce que ça a toujours été prononcé comme ça. Mais du coup, quand j'ai commencé à regarder, je me disais, ben, c'est chez moi.
c'est énorme.
Voilà. Et mais par contre, ce qui, alors je sais pas à quel point est-ce qu'ils connaissaient cette ville et qu'ils ont un petit peu été influencés par ça. Parce qu'après, au niveau des, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'influence andalouse que catalane. Enfin, sur le film notamment, sur l'une des premières musiques. Voilà. Okay. Mais sinon, Rosas existe. C'est à côté de chez moi. Et c'est en bord de Méditerranée. Voilà.
Et c'est personnellement, je trouve, un très mauvais choix. Parce que je ne comprends pas qu'on te dise dans l'introduction, ça se passe en Méditerranée, pour un film qui est censé être magique, qui est censé être un peu intemporel. Pourquoi est-ce que tu donnes un nom de lieu qui existe? Ça, je ne comprends pas.
Après, Méditerranée est magique.
Ouais, ça s'explique parce qu'ils disent quand même que l'île est un peu cachée, qu'ils créent un royaume à part. Donc, moi, ça m'a pas choqué. Par contre, je serais intéressé de voir si les animateurs ont fait un voyage découverte comme ils font souvent. Par exemple, pour Raya, ils sont allés en Asie du Sud-Est, Encanto en Colombie, etc.
Luca, ils sont allés en Italie.
Oui, voilà, de voir si les animateurs ont fait un voyage du côté de la Méditerranée et si oui, est-ce qu'ils sont allés voir la vraie Rosas.
Voilà, peut-être. Voilà.
Donc on vous propose de passer maintenant à la partie avec spoiler. Ceux qui n'ont pas vu le film, filez au cinéma et puis revenez écouter la fin de l'épisode. Attention spoiler. Attention spoiler. Bon, Shane, je sens que tu as des choses à dire et des références à pointer.
Ah, tu veux commencer
donc
par ça.
Je te laisse. Ah, je te propose de commencer par ça.
Ah, allez, oulala, les références. C'était d'ailleurs la promesse que vous aviez faite sur Instagram quand vous aviez fait ma présentation, que j'étais la personne qui allait chercher la petite bête,
repérer les easter eggs, les easter eggs, exactement, etc. C'est ton moment.
Et du coup, effectivement, bah, on va le dire tout de suite, le film en est bourré. Ils se sont amusés à planquer, parfois c'est gros comme une maison, et c'est, voilà, on a mis un truc, il fallait que ce soit vu. Et donc, effectivement, en sortant de cette image, j'ai vite noté. Bien sûr, j'ai pas tout.
Je crois qu'il y en a une centaine, je crois. J'avais
dit. Bah, oui, sûrement. Et je suis sûr que tu peux le revoir plusieurs fois et en retrouver d'autres. Et si ça tombe, il y en a, il faut faire pause, peut-être, et pour voir en fond, ça, je sais pas. Hein, mais j'ai quand même noté, du coup, quelques-unes qui étaient vraiment flash, d'autres un peu moins. Et on va commencer par Blanche-Neige. Parce que clairement, le film qui est le plus, dont on parle le plus, c'est Blanche-Neige. C'est le premier film de long métrage de Disney. Et ils se sont bien amusés à planquer un peu tout le long du film des références. Le premier que j'ai noté, c'était quand, bien sûr, on voit le puits de Blanche-Neige. Et elle dit, il y a une petite phrase où elle dit quelque chose du style « Je ne vais pas me mettre à parler aux animaux ».
Ah oui. Bah, c'est Blanche-Neige, mais c'est aussi Aurore, Cendrillon.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est des princesses en général, mais comme ça, ça se passe à côté du puits. C'est vraiment une référence à Blanche-Neige. Puis, quand Magnifico, qui, spoiler, du coup, est un méchant, on l'a pas dit dans la partie précédente, mais qui est un grand méchant, prépare un de ses genres de potions, on voit la pomme empoisonnée à côté de lui. Et plus tard, dans le film, il est face à des miroirs et il dit qui est le plus beau dans le miroir, hein. Enfin quelque chose comme ça, enfin, clairement référence à l'art.
D'ailleurs, Magnifico, je trouvais ça assez chouette déjà d'avoir de nouveau un vrai grand méchant
ça,
Disney.
Je suis très
parce que ça manquait quand même ces dernières années, hein, dans les Raya, les Encanto et tout. C'est des films que j'aime beaucoup, mais ça manquait d'un vrai grand méchant charismatique. Et alors, il rassemble un peu l'esprit de tous ceux qui sont venus avant lui. Et un truc bête, hein, ils sont tous associés au vert fluo, comme ça, au vert, ouais, vert citron, un peu vert fluo. Mais dès qu'ils deviennent méchants, t'as toujours cette couleur-là qui revient dans les nuées de fumée, dans les yeux, etc. Hein. Ouais, tu as ça, t'as le côté un peu. Des fois, il a des vibes un peu d'Ursula, des fois, ouais. Tu as, comme tu dis, les miroirs et tout. Franchement, ça fait du bien.
Noté, on va y revenir à effectivement, ce côté. En fait, c'est un peu un mélange de plusieurs méchants Disney. Notamment dans la fin, vraiment la scène finale où il s'énerve, il va tout casser, il veut battre tout le monde. Il y a vraiment, on voit le costume avec le sceptre. Ça fait quand même vraiment penser à Jafar, la façon dont il parle.
Mm-hmm.
Derrière lui, tu as la brume qui ressemble vraiment à quand Ursula grandit dans la petite sirène. Et le sort qu'il lance, effectivement, est vert et ressemble très fort aux ronces qui vont enserrer le château dans la belle
Ah oui, c'est vrai ça.
Et donc, effectivement, pour moi, c'est fait exprès. On a un peu pris des méchants clés de l'histoire de Disney et on les a fusionnés dans ce personnage. Et la scène finale, c'est vraiment une montée en puissance. Je veux dire que tous les méchants y passent, bien sûr que non, mais plusieurs, il y a clairement des références. Peut-être qu'il y en a même d'autres, hein. J'en cite trois, mais il y en a peut-être même d'autres à d'autres moments du film. Mais clairement, à ce niveau-là, il y a quelque chose. Et alors, la dernière que je voulais... Vas-y.
Ah. Non, sur Blanche-Neige. Je ne sais pas si c'est la même.
C'est sur Blanche-Neige ou sur Blanche-Neige?
Sur Blanche-Neige.
Ah, mais sur Blanche-Neige. Alors, non, je vais te le dire avant.
C'est toi qui as préparé. On a dit l'avant.
Ah, ben, on va voir si c'est à la main, moi aussi. Hein. C'est que Acha a des amis et Acha elle a sept amis et les sept amis sont bien sûr les sept nains. On le voit aux vêtements, on le voit aux expressions. Tu as un personnage qui éternue tout le temps, tu as le petit qui râle, qui d'ailleurs dit à un moment c'était tellement gros qu'il dit je suis grincheux. Allez, ça devait... Soyez un peu plus subtil, peut-être.
Oui, ça manquait de subtilité, ça manquait beaucoup des sept nains, franchement.
Tu as bien sûr celui qui dort, le grand simplet, il avait un bonnet mauve, il était habillé en vert. Donc la grosse référence aux sept nains. J'ai trouvé ça drôle et bien amené jusqu'au moment où l'autre dit « je suis grincheux », là je me suis dit « là c'est trop ».
Exactement. Par contre, si, puisqu'on est dans la non-subtilité, moi il y en a une dont je dois parler maintenant, ça doit sortir. Peter Pan. Mm-hmm. Peter Pan, c'était de trop. C'est-à-dire que on le voit arriver, le bro, c'est Peter Pan. Il est habillé pareil, il a le même chapeau. Genre, c'est lui. Et je me dis, il aurait suffi de faire une petite phrase type « Oh, lui aussi, il rêve de voler. » Enfin, un truc un peu plus subtil. Mais là, c'était vraiment genre « Voici Peter. Peter aime voler. » C'était de l'anti-subtil à mort. Franchement, ça, j'ai trouvé que c'était raté.
De ce que moi, j'ai vu, c'est le deuxième film dont on parle le plus, parce qu'il y a plusieurs références à Peter Pan dans tout le film. Notamment...
Bah, l'étoile, déjà, l'étoile.
Oui, c'est ça. À un moment, il y a un personnage qui crie « On s'envole ». Bon, ça, c'est quand même très Peter Pan. Ouais. On parle du pays imaginaire, en même temps que du pays des merveilles, pour Alice. Et effectivement, à la fin, de nouveau, les trois premiers, pour moi, ça passe. Mais à la fin, là, c'est « Ah bah non, un personnage qui est déguisé en Peter Pan, il a inventé une machine pour voler, tu ne voudrais pas aller voler avec
Peter.
Lui ?»
Il s'appelle Peter.
Il s'appelle Peter ? Non, ça,
je crois pas. Elle lui dit vraiment, genre... Voici Peter. Peter rêve aussi de voler. C'est anti-subtil à mort. C'est
de nouveau le.
Moi, c'est la seule que j'ai trouvée ratée. Parce que elle est tellement forcée que ça en devenait raté. Quoi. Mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment bien faites. Et franchement, en fait, ça me donne envie de le revoir. Et j'espère qu'il sortira sur Disney Plus dans pas trop longtemps.
Oh bah en Belgique, dans 2 semaines. Hein.
Sorry. Non, mais ça donne envie de le revoir et d'aller chercher tous les Easter eggs.
C'était ça, du coup, c'était les 7 nains, Cédric, que tu voulais dire.
Ouais, c'était les 7 nains. Okay. Mais tu vois, moi, par contre, toute cette histoire de. Moi aussi, il faudrait que je le revoie parce qu'en plus, des fois, on le regarde une deuxième fois, on a un avis qui diffère de la première, puis on voit des éléments qu'on n'avait pas vu avant. Mais tu vois, moi, je trouve que c'était problématique, c'est toutes ces références, parce que. C'était donc ils cumulent les références et j'ai l'impression qu'ils en oublient presque le film, quoi. Ça devient presque un jeu de savoir quand c'est qu'il y en a, est-ce que tu as vu ça, et ça enlève toute émotion. Je trouve que ça enlève de l'émotion au film et. On avait l'impression qu'ils avaient sorti tous les films et puis ils cochaient, ils disaient ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et presque ils ont mis ça dans une intelligence artificielle et ils ont sorti le scénario qui amène toutes ces références. Moi je trouve que
il y en avait trop. Ça peut être
ça peut être marrant de voir les références et toi de le revoir, ça me ferait plaisir de voir des références que j'ai pas vues. Mais pour le film, on en oublie presque le. Et eux-mêmes, je pense qu'ils ont même oublié le film.
Bah, Moi, je dirais vers la fin, oui. Pendant tout le film, en plus, moi, je vous avoue, j'ai été assez hermétique aux easter eggs, bon, à part Peter, mais j'ai été assez hermétique aux easter eggs, dans le sens où, soit moi, tu me dis, il y a un puits, bah, moi, quand je vois un puits, je pense pas forcément à Blanche-Neige, tu vois, donc j'ai pas vraiment recherché. Ah oui, non, mais je dis pas, tu as raison, mais je veux dire, moi, je n'y ai pas fait attention, tu vois, et il y a beaucoup de petits trucs, je pense que les petits trucs subtils, j'en ai raté plein, parce que j'étais pas dans l'esprit de chercher les références, je savais même pas qu'il y en avait, en fait, avant d'aller voir le film. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à... Mais donc, tout ça pour dire, moi qui n'ai pas fort fait attention aux références, allez, le scénario il tient quand même bien debout tout seul, voilà. Il y a une vraie recherche, pour moi c'est un vrai film qui se tient, mais à la fin, je dis Peter en rigolant, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres exemples, vers la fin tu sens trop le côté, oui on veut mettre de la référence pour mettre de la référence, mais quand je dis la fin, c'est les 15 dernières minutes.
Quoi. Et c'est moins subtil en fait, c'est ça, c'est le, comme on dit, le grincheux, c'est le Peter Pan, il y a aussi un moment, il y a trois d'un coup, où il y a des rêves en main, et tu as Peter Pan, tu as Mary Poppins, et tu as, je crois, Alice, je me trompe peut-être pour le dernier.
Oui, parce que ça dit Pays des Merveilles, c'est possible.
Et donc là, c'était trop gros, c'est pas subtil. Mm. Et donc ça, c'était peut-être dommage. Maintenant, je trouve, comme Émilie, que le film se tient en lui-même. Tu as pour moi les deux, tu as vraiment un film, c'est pas, on n'a pas pris toutes ces références pour en faire un film, il y a un vrai film dans lequel il y a des références. Il y a une vraie histoire, et l'histoire, je l'ai trouvée vraiment très bien, personnellement.
Non, parce que je trouve que l'idée de Bal, je trouve ça génial, l'idée du roi qui vole un petit peu les rêves et qui l'utilise justement les rêves des gens pour contrôler son peuple. Ça, vraiment, ce départ-là, moi, je trouve ça vraiment bien. Mais j'avais l'impression qu'ils sont pas aller assez loin avec ça en fait, et qu'en fait il s'oublie un petit peu avec cette histoire de référence en fait, voilà, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais
comme quoi c'est vraiment une question de perception, parce qu'effectivement je trouvais que le balance était bien, je trouve que le film en tant que tel, même s'il n'a pas les références, se tient très bien. Et l'histoire est
oui, c'était pas trop du fan service,
voilà, quoi. C'est ça.
Non, ça, oui, elle se tient quand même, je dis pas que ça tient pas, oui ça se tient quand même.
Ce qui me fait penser, ce que tu dis, que puisqu'on parlait du méchant, il y a un côté, bon, je dis Hans, mais il y en a d'autres qui sont dans le cas aussi, on a un personnage qu'on croit gentil au début, qui en fait est le grand méchant. Bon, après, le switch, il se fait assez tôt, et ça se comprend assez vite aussi. Mais ça, c'est pas mal. Moi, j'étais en train de me dire aussi que tout l'aspect sur les vœux, sur les souhaits, etc., je le retrouve pas... Allez, on pense forcément à Peter Pan, avec avec l'étoile. Mais on le retrouve, enfin c'est pas tous les Disney non plus, quoi, je veux dire, tu as des personnages qui font des souhaits, je pense à Pinocchio, Peter Pan, mais pour moi c'est pas un thème non plus récurrent, c'est pas un thème que j'associe forcément à Disney en général, parce que si vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc qu'on va retrouver dans quelques vieux Disney, et puis il y a un rappel dans La Princesse et la Grenouille aussi avec Evangeline, mais je me souviens qu'il l'avait vendu un peu comme l'origine story de l'étoile des souhaits, machin et tout. En fait, en y réfléchissant, c'est un chouette thème, c'est un retour aux sources, parce que il y a de la magie, il y a une chouette héroïne, il y a un grand méchant, il y a des chansons qui suivent vraiment le thème de, voilà, chanson d'ensemble, la chanson de l'héroïne, la chanson du méchant, etc. Mais le thème de l'étoile en soi, oui, ok, c'est chouette, mais pour moi, c'est pas ADN Disney non plus, quoi.
Non, juste ce que je trouve intéressant sur le méchant, c'est que par rapport, quand tu parles de Hans et tout ça, c'est que sur ce Disney-là, c'est un méchant, mais qui ne se pense pas méchant. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Il pense vraiment qu'il fait du bien, en fait, à son peuple, qu'il protège son peuple et tout. Lui...
Avant, voilà, du moins au début,
ouais, après il part un petit peu en sucette, mais du moins il se pense pas méchant à la base, il pense vraiment faire le bien, on va dire, de protéger son peuple.
Je pense vraiment que ils sont partis de la chanson, en fait. When You Wish Upon a Star, c'est vraiment une des chansons les plus emblématiques de Disney. Tu penses à Disney, tu penses forcément à cette chanson, pour moi c'est dans les plus connus, et du coup, enfin je sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout, mais il y a une scène post-générique, ce qui n'est pas habituel.
Il y a toujours des scènes post-génériques maintenant.
Et d'ailleurs, pour la truc, on était les seuls à être restés jusqu'au bout.
Ah ben, nous aussi, il restait trois familles, alors qu'il y en avait... 30 ou 50 au départ, ouais. Effectivement. Les gens sont partis, quoi. Alors qu'effectivement, il y a du coup le grand-père de Achard
Oui.
qui joue
Oui.
la chanson à la mandoline When
Ouais.
You Wish Upon a Star,
Ouais,
juste
c'est joli
après
ça.
le générique.
Même sans ça, j'étais restée. Oui, j'étais restée pour le générique, sans même penser qu'il y avait une scène post-générique, mais pour voir tous les personnages, donc pour ceux qui sont éventuellement pas restés, ils mettent, je crois, un personnage de chaque grand
Oui.
classique d'animation Disney, depuis le premier, Blanche-Neige, jusqu'au dernier. Ce qui est très triste d'ailleurs, parce que le dernier, c'est Avalonia, l'étrange voyage, et je t'avoue que on a vu, ils ont mis comme personnage l'espèce de blob là.
Ouais.
Avec ma sœur, on s'est regardé, on a fait. Alors on l'a vu, mais j'ai complètement oublié le titre.
Et
Et franchement, c'est dire à quel point il était oubliable, quoi. Je me souviens qu'on l'a regardé sur Disney+ en se disant, oh, un Disney, allez. Et franchement, oubliable de A à Z, quoi. Donc,
ben,
ouais, c'est un peu triste.
ben merci Émilie de l'avoir dit parce que tu vois, j'étais pareil, je ne percutais pas d'où ça sortait.
Ah ouais, non, mais j'avais. Allez, c'est triste, quoi. En sortant du cinéma, j'ai dû retourner sur Wikipédia pour retrouver le titre. Je me dis, mais
Ah,
t'imagines,
voilà.
un Disney dont tu oublies jusqu'au titre, c'est quand même triste, quoi.
Mais tu dis tous les... il y a un personnage de chaque film. Eh ben moi je pense, en fait non, moi j'ai vu que moi il en manquait
Ah oui?
parce que dans les classiques vraiment il manquait, il me semble, maintenant peut-être que vous l'avez vu, Bernard et Bianca. Je n'ai pas vu Bernard et Bianca.
Voilà, comme ça, moi je peux
Ou
pas te
alors je l'ai
donc je sais pas
raté.
te le dire à 100%.
Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que le seul film de la période des années 40 où il y a donc tous ces courts-métrages qui sont rassemblés en des longs-métrages, etc. Il y a seulement Ichabod Crane, donc c'est celui de Sleepy Hollow.
Le crapaud et le maître 1.
Non, la légende de Sleepy
Ok.
Hollow. Et le crapaud, je crois que le crapaud est dedans aussi. Mais il n'y a pas du coup les autres, notamment Mickey, Donald, tout ça, qui sont les héros des films de cette époque-là. Ils ont vraiment pris les
Ah oui,
personnages
d'accord.
qui ne sont pas Mickey, Donald, Dingo, etc. Donc ceux-là, ils ont sauté des films. Et il me semble, Bernard et Bianca, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment, surtout qu'il y en a eu
Ah, j'ai pas
deux,
le
et
souvenir.
je l'ai pas, aucun des deux, je ne l'ai vu. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre.
Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il n'y a pas eu, parce qu'il y a des classiques Disney qui sont des films de Mickey, Donald et compagnie, et eux n'apparaissent pas, mais ça m'a pas choqué, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de montrer un peu tous les autres. Là où je me suis dit que c'était assez complet, c'est quand j'ai vu qu'ils mettaient La Ferme se rebelle et Chicken Little, alors que je
Ah
pense que
oui.
Disney aimerait bien l'oublier au fond des
Les
cartons. Parce
dinosaures.
que t'as dit tout à l'heure qu'ils étaient sortis en été, je crois. On précise quand même que c'est pas la date de leur sortie qui est à l'origine de l'échec, hein, parce que. Enfin, Chicken Little, quoi.
Je ne l'ai jamais vu.
Moi en plus, je
Ah
crois que j'ai jamais
franchement,
vu.
pour ta culture,
Il faut le
vas-y.
mettre. Mais on avait recommencé avec ma femme, on avait décidé de les regarder pendant la période Covid, tous dans l'ordre. Mais en fait, on a mis très longtemps à passer justement cette période des années 40 où on avait un peu de mal. Et résultat, là,
Ouais,
on
c'est
en
pas
est
top.
pour l'instant au 100 dalmatien, d'une quinzaine. Un jour, on y arrive. Il
Un
faudrait un
jour, on y
deuxième
arrivera, oui.
Covid en fait pour avoir le temps de passer tout
Ouais.
ça.
Non, parle pas de malheur, hein, c'est bon.
Mais c'était vraiment sympa ce générique effectivement de faire
Ouais.
hommage à tous les personnages. Parfois les gentils, parfois les méchants. Il y a quelques méchants qui prennent la place du héros, notamment Maléfique.
Ouais, c'est vrai.
Isma, j'étais étonné. C'était
Ah
Isma et c'était pas
oui, j'ai trouvé ça
Cusco.
chouette.
Je sais plus s'il y en avait d'autres. Il n'y en avait pas
J'ai pas tout
beaucoup, hein, mais il y en avait
retenu,
quelques-uns.
mais c'était un plaisir de rester le regarder, quoi. Alors que d'habitude, le générique, c'est toujours trop long. Là, justement, on s'amusait à deviner le prochain,
C'est
à
ça.
regarder.
Et sa
C'est
force a resté
chouette.
jusqu'à la fin, jusqu'à la scène
Aussi,
post-générique,
aussi.
où plein
Ouais,
de gens ont
ouais.
en fait abandonné, comme Cédric disait. Donc
Ah
ça,
oui.
c'était un bon point aussi.
Qu'on parlait de l'étoile tout à l'heure, ça m'a fait repenser à un autre truc qui m'a dérangé. Je maintiens, moi j'avais un problème avec la traduction française, qui m'arrive pas souvent, mais là oui. La chanson On est tous des étoiles, ça c'est un problème quand même. En
Ah,
fait,
c'est
il y
avec
a un
les
jeu de
animaux,
mots.
ça.
Oui,
Oui,
donc c'est tous
excuse-moi.
les animaux dans la forêt qui chantent, en fait on est tous des étoiles. Et le problème c'est que le jeu de mots marche très bien en anglais, c'est quand tu dis You're a star, bah oui, t'es une star, et en même temps t'es une étoile. Et là en français, ils ont pris le parti de la traduire pour qu'on comprenne, mais en même temps, ça marche pas.
C'est
Je trouve que ça
compliqué.
marche pas. Et en même temps, s'ils avaient dit t'es une star, ça aurait fait bizarre aussi, parce que les gens auraient pas forcément fait le rapprochement avec les étoiles, etc. Enfin, c'est vrai, même si on comprend, tout le monde parle pas anglais. Mais...
C'est I am a star. C'est vraiment Je suis une star, le titre original, effectivement, Tous des étoiles en
Ouais.
français.
Ouais, mais du coup, en anglais, y avait toujours ce jeu de mots entre star, l'étoile, et voilà,
Ouais, et
et
qui là ne marche pas.
que là, sur le français, du coup, on l'a pas.
Ouais. Il y a une traduction que j'ai trouvée pas mal, c'est la chanson du méchant, justement. Donc, c'est, en anglais, c'est « This is the thanks I get ». Et j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais en fait, je sais pas comment je traduirais ça en français. C'est compliqué, il y a pas vraiment d'équivalent.
C'est le merci que je reçois. C'est vraiment
très oui, littéralement, mais tu vois, ça se dit pas en français. Non, c'est compliqué. Et donc là, ils l'ont traduit par « Voilà ma récompense », et je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, je sais pas si on aurait pu faire mieux que ça. Par contre, celle d'après, qui est la chanson justement que j'appelle un peu « On fait la révolution parce qu'on n'est pas content », donc c'est tous les copains d'Acha qui décident de se rebeller contre le roi. Encore une fois, elle fait beaucoup plus con-con en français, parce qu'en anglais, c'est « Knowing what I know now », qui est un peu compliqué à prononcer, mais qui où elles disent en gros, maintenant que je sais, maintenant que j'ai découvert la vérité, je peux plus me taire et donc je vais aller me rebeller, etc. Qui est un message un peu plus, déjà un peu plus subtil. L'autre, c'est, la traduction en français, c'est « Ce n'est plus mon roi », qui n'a rien à voir. Et qui faisait un peu plus « Prenons la Bastille », je trouve.
Mais cette partie, cette chasse-là, c'est celle qui a, quand ils sont...
tous ses amis dans une...
Ouais, dans une pièce, là, ouais, c'est ça, côté résistance et tout ça, là. Ouais, mais moi, j'ai bien aimé quand même ce passage-là.
Ah, mais la chanson est vraiment bien. Et l'animation est super cool.
Ouais.
Parce que ça, on n'a pas encore parlé. Donc, on disait, cette histoire d'animation 2D, 3D, est un peu effacée dès qu'il y a une chanson. Parce que dès qu'il y a une chanson, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, disons, qui fait que quasiment tout est en 3D. Il y a beaucoup moins le décor. Résultat, ça fait beaucoup plus moderne. Je pense par exemple à Je fais le vœu, où tu as tous les vœux qui tournent autour des deux personnages. Tu as donc, effectivement, Ce n'est plus mon roi, où ils sont, il y a un jeu d'ombre chinois sur les murs, on passe d'un personnage à l'autre qui se répond. Tu disais aussi tous les étoiles avec tous les animaux de la forêt. Il y a beaucoup moins le côté décor. Et du coup, ça fait beaucoup plus moderne. Et je trouvais qu'il y avait un rythme et une ambiance à ce niveau-là qui était vraiment bien fait. Moi, j'ai vraiment été entraîné à ces moments-là. Même si les chansons que tu disais sont peut-être un peu plates en français ou quoi, tu es quand même embarqué. Enfin, moi, c'est comme ça mon sentiment, en tout cas, vraiment.
Oui, il y a que.
Et ça, t'as là vraiment l'apogée avec la dernière, qui est donc la reprise de Wish, donc Je fais le vœu, qui est chantée d'abord par Acha toute seule, puis par tout le monde. Et là, personnellement, moi, j'avais des frissons.
Ouais, moi, c'est pareil, là, j'ai eu des frissons à ce moment-là.
Le cœur de tout le peuple, qui d'abord ses amis, puis de tout le monde qui reprend la chanson, c'était vraiment bien. Et là, vraiment, moi, ça m'a évoqué un de mes plus beaux souvenirs qui était de voir Happily Ever After à Walt Disney World, où quand tu as les envolées devant le château, moi j'ai vraiment ressenti la même chose. Il y a une envolée de la musique, tout le monde chante en même temps, moi j'avais vraiment les frissons.
Pareil, ce passage-là vraiment il est prenant et ça, c'est chouette.
Et vous n'avez pas eu ce sentiment avec l'idée que je disais il y a moins ce décor 2D et que du coup c'est plus moderne, peut-être plus vivant aussi.
C'est vrai, mais après c'est vrai que moins l'animation. Par contre, ce que j'ai trouvé chouette quand on parle de modernité, c'est il y a un beau mélange, je trouve, et là la balance est vraiment bien trouvée entre le côté Disney traditionnel, magie, princesse et nanana, et en même temps c'est moderne. Et il y a le côté, allez, je dirais c'est moderne dans les idées, dans la façon dont c'est construit, dans les personnages aussi. Ce que je trouve joli, c'est que c'est un film qui est hyper inclusif sans que ça soit mis en avant du tout, c'est juste là. Acha, l'héroïne, elle est métisse. Sa copine, quand on y pense, sa meilleure amie dont j'oublie toujours le nom, là, elle est là, elle est un peu ronde, elle marche toujours avec une canne, enfin voilà, c'est des personnages qu'on ne verrait pas du tout dans un Disney, même d'il y a 10 ans, qui ici, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus inclusif. Alors dans la foule, donc Rosas, c'est un royaume imaginaire, on voit qu'ils sont tous habillés fort à la mode médiévale, hein, on le voit dans les coiffures des dames, enfin les coiffures des dames et des hommes d'ailleurs, les chapeaux, les trucs et tout, on voit des filles qui sont voilées de temps en temps, enfin c'est des petites choses comme ça, c'est un peu l'inclusion à la Disney, on va dire, de ces dernières années, c'est là, c'est juste là, et on n'en parle pas, on n'en fait pas tout un plat, mais c'est juste le monde... Oui, c'est vrai.
Il n'y a aucune histoire d'amour.
quand on parle, on fait des références aussi à tous les anciens films. Et je trouvais qu'il y avait aussi cette idée, justement, en montrant de Disney, c'est quand même, c'est mondial. En fait, ça passe dans le monde entier. Et ça, justement, ça représentait... on a l'impression de représenter tous les peuples, quoi. En fait, tous les...
Oui, c'est vrai. Ça faisait très universel. Oui, ouais, j'ai trouvé ça chouette. Et c'était pas du tout... Enfin oui, c'est pas du tout forcé, c'est pas du tout le sujet, mais c'est juste un fait, quoi, et j'ai trouvé ça vraiment bien.
Mais non, les personnages, quand tu enlèves Asha et le roi, sont pas fort développés non plus. Y a pas... Ils sont très en retrait.
C'est vrai.
Ses amis...
La reine évolue.
La reine un peu plus.
Voilà, parce que...
Effectivement. Ah,
ouais, elle évolue quand même, parce qu'au départ, je la trouvais fan, on va dire, et après, petit à petit, elle prend du poids dans le film et elle devient plus intéressante.
Ouais.
Mais bon, le summum, moi je trouve du ridicule, enfin du ridicule, c'est du fait du personnage qui sert à rien, c'est Valentino. Enfin, c'est, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fait dans ce film.
Donc la petite chèvre.
Ouais, la petite chèvre. Voilà, je comprends qu'ils ont voulu en faire la caution comique du film, comme peut être Olaf, etc., comme la Disney a l'habitude. Mais je trouve que c'est complètement loupé. Mais en plus, tout le film, je m'attendais à qu'il ait un petit peu son passage à lui, qu'il va faire quelque chose qui va être tournant pour l'histoire. Genre, je sais pas moi, aider Asha, qui est dans une mauvaise posture, n'importe quoi, faire un petit truc qui fait qu'il a une importance dans le film. Mais ça vient jamais, il ne sert strictement à rien. Il sert à rien, ce personnage.
C'est juste l'animal de compagnie, quoi.
Oui, qui essaie de faire rire et je trouve qu'il n'est même pas drôle.
C'est un peu l'âne de Shrek, mais en moins bien. C'est ça que tu veux dire.
Oui, voilà. Enfin,
ouais, je suis pas d'accord parce que l'âne de Shrek, il sert quand même à
quelque chose. Mais qu'ils ont voulu faire ça, mais ils n'ont pas réussi, c'est ça que je voulais dire.
Voilà, oui, par exemple, on prend sur Shrek, voilà, le personnage sert à un rôle dans le film. Là, Valentino, à moins que j'ai loupé quelque chose...
Ouais, et il est moins drôle que d'autres personnages sidekicks qu'on a eu, comme dans Vaiana, le cochon, ou bien les petits dans La Reine des Neiges, les salamandres, Olaf, comme tu disais, tout ça, oui, ça. Ouais. Après, ça m'a pas dérangé, mais je comprends ce que tu veux dire.
Ça m'a pas dérangé, mais je veux dire... Oui, ce personnage, il est pauvre, quoi. Et même, il y avait pas mal d'enfants dans la salle de cinéma où j'étais. Et les enfants riaient pas forcément à ce que faisait Valentino, quoi. Enfin, c'était pas non plus...
Après, c'est pas le plus drôle des films Disney, hein. Sur le coup, c'est pas un film où on rit aux éclats, c'est pas le genre. Après, je suis pas sûr qu'ils ont essayé non plus, mais...
Ah ouais.
Non, c'est pas.
J'ai l'impression que ce personnage était là pour ça quand même.
Oui, c'est ça, et qu'ils ont raté leur coup. Ouais, ça m'a pas dérangé. Mais je comprends ce que tu dis, effectivement. Peut-être qu'ils auraient pu aller un cran plus loin. Et effectivement, la blague au final, c'est que quand il a sa voix, il a une voix grave. Alors que tu t'entends un petit chevreau, une petite voix, et en fait, c'est la voix de Gérard Darmon qui a. J'ai une grosse voix. Mais effectivement, à part ça.
Travaillé par l'alcool.
Ouais, bah c'est un peu le sidekick mignon pour vendre des peluches.
Avec en fait,
j'étais en train de penser à Pua dans Vaiana. Avec l'étoile. Mais tu vois, Pua dans Vaiana, c'est aussi le cochon que tu vois 2 minutes. Ouais, tu la vois 2 minutes au début, 30 secondes à la fin. Elle ne sert à rien dans l'histoire non plus. Mais qu'est-ce que ça vend des peluches? Donc... Enfin, moi, je trouve. C'est un peu dommage parce que là, c'est le truc où tu sens. Oui, c'est le personnage à peluche, quoi. Il y en a un dans tous les Disney. Des fois, il est bien amené, des fois pas. Bon, bah là, c'est juste un personnage à peluche.
Ouais. Avec l'étoile, quand même. Qui du coup est dans un design totalement différent du reste du film, très japanisant, kawaii. Moi, ça m'a fait penser au jeu Mario Galaxy. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais il y a des étoiles qui ressemblent super fort. Moi, en tout cas, je trouvais. Et donc, ça détonne un peu. Mais au final, là, je trouve qu'on s'y habitue, ça donne relativement bien.
Ça m'a pas choqué. C'est vrai que le design est différent, mais ça m'a pas choqué non plus. Par rapport à tout le reste, parce que c'est quand même censé être un personnage magique avec une forme différente, donc voilà, c'est pas choquant, c'est pas comme un humain qui serait vraiment différent.
Ouais. Et j'avais lu quelque part, je sais plus où, qu'apparemment ils avaient quand même ils avaient beaucoup eu du mal à trouver la forme définitive de l'étoile. Ils avaient fait beaucoup d'essais, ça allait pas. Ils ont beaucoup travaillé. C'est l'un des personnages entre guillemets qui ont eu le plus eu du mal à trouver la forme définitive, on va dire. D'accord. le rendu définitif.
Bah après c'est toujours tout double hein, ce genre de personnage de design. T'as envie d'avoir un truc à la fois qui marque mais que les gens vont s'approprier, ça c'est pas facile.
Ouais.
Et la toute fin, et chouette référence aussi, c'est que quand il y a le feu d'artifice au-dessus du château, il y a une des étoiles qui fait, vous voyez le générique du début en fait des films Disney, l'étoile qui passe au-dessus du château de gauche en passant par en haut et qui descend vers la droite. Et donc ça, ils le font dans le feu à la fois forcément au début comme dans tous les
Ah
films
ouais.
Disney, et en plus ils le font dans le feu d'artifice à la fin au-dessus du château de ce film-ci. Et donc ça, j'ai trouvé ça par exemple, c'est vraiment une référence qui est bien. C'est vraiment, c'est un petit truc, ça change rien au film et ça fait plaisir quand tu le vois. Tout comme il y a certaines phrases aussi, mais de nouveau il faudrait comparer la VO à la VF. Mais à un moment, il y a un personnage qui parle de pauvre âme en perdition, qui clairement est une référence du coup à Ursula.
Ah ouais, bah tu vois, c'est tout des trucs qui m'ont pas marqué sur le moment,
C'est
mais c'est pour
ça.
ça
Mais
qu'il
il faudrait voir si c'est les mêmes blagues en français, en anglais. Est-ce qu'en anglais, je sais pas quelle est la phrase en anglais pour cette pauvre âme en
C'est
perdition.
vrai, franchement.
Hein, quelque chose comme ça. Bah, peut-être, voilà. Ou alors c'est, mais parfois tu serais surprise, hein. Parfois les gens qui font les traductions, ils rajoutent des blagues, hein. Ce serait pas la première fois, enfin des blagues ou des références.
Ouais.
Mais oui, il y en a encore.
Ah ouais. Je trouve que c'est la caractéristique d'un bon classique Disney aussi, c'est que t'as envie de le revoir et que tu prends plaisir à le revoir parce que voilà, y a des scènes réconfortantes, il y a des trucs que tu n'as pas compris la première fois, il y a des belles chansons, etc. Ici, franchement, en sortant du cinéma, je me suis dit, bah, ça me plairait bien de le revoir. Et quelque part, c'est comme ça que sont construites les bonnes attractions Disney aussi, hein. Nous, on se disait souvent en y allant en famille que. Pourquoi est-ce qu'une attraction comme Peter Pan, ça marche bien? Ben c'est qu'il y a toujours des petits détails, ou Small World peut-être, il y a toujours des petits détails, donc tu as toujours envie de refaire l'attraction pour voir les petits
Ouais.
détails que t'as pas repérés la première fois. C'est un petit truc qui est très Disney, mais qui marche bien.
Et il y a clairement une différence entre celles qui sont grosses comme des maisons et celles qui sont un peu plus subtiles. Parce que dans le style grosse comme une maison, l'ours s'appelle quand même Petit Jean et il parle à un copain qui s'appelle Bambi. Hein. Le
Enfin, c'est
cerf, du
vrai.
coup, s'appelle Bambi. C'est Petit Jean et Bambi.
Mais moi, je pense que des fois, ils avaient même plus d'idée comment intégrer quelque chose. Et ils ont dit bon, ben ça, on va l'appeler Bambi. Au moins, ça sera fait. Allez, Bambi, c'est fait.
Oui, c'est
Voilà.
ça. Et parfois, c'est plus subtil. Enfin, toujours dans cette scène de la chanson avec les animaux, à un moment, elle passe sous une arche de plantes, enfin d'une haie. Moi, ça m'a vraiment évoqué Alice au Pays des Merveilles, quand elle traverse certains décors du film. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est juste moi qui avais envie de voir une référence là? Je sais pas. Mais moi, en tout cas, ça m'a évoqué ça. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas Alice là, à ce moment-là? Ou alors d'autres sont beaucoup moins subtils. Là, quand elle reçoit sa baguette, elle est habillée comme Ma Reine Fée dans Cendrillon. Son vêtement enfin pas le même, mais il est inspiré, quoi, la cape.
Oui, tu vois là de nouveau, ça aurait pu en rester là, mais à la fin, ils se sentent obligés de dire, oh, tu seras comme notre marraine, la bonne fée. Oui, bon, tu vois, tu l'aurais pas dit que ça marchait mieux, quoi.
Poser juste la question par rapport à la toute fin du film, est-ce que ça serait pas le premier divorce dans un film Disney?
C'est vrai.
Parce qu'à la fin, quand même,
Ouais.
par rapport au roi, bon, forcément, la reine
Il est enfermé.
ce, que le roi est toujours en vie, hein.
est
C'est
toujours
pas
en
qu'elle est
vie.
veuve, il n'a
Voilà.
pas
Ah ouais.
disparu.
Et donc, je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas le premier divorce qu'on voit dans un film Disney? Voilà.
C'est aussi moderne, ça, mine de rien. C'est un peu un divorce de fête, on va dire.
Et est-ce que la femme a le droit de divorcer au Moyen Âge?
Mais déjà parce que si souvent il n'y a pas de couple adulte, hein. Souvent
Ouais,
t'as
c'est
qu'un
pas faux, c'est
parent.
pas faux.
Dans plein de films, et ici toujours, hein, t'as un grand-parent et un parent. On te dit pas où sont les autres, ils sont morts, on sait pas. Clairement, ici, Asha, elle a sa mère et son grand-père, mais probablement le grand-père du côté de son père, vu la couleur de peau. Et donc, il y a tout le reste, on ne sait pas.
Non, mais en plus, et même je pense qu'il n'y a aucun méchant Disney qui est en couple. Je vois pas, là, je cherche. Il n'y a pas un seul
Là, comme ça, je vois pas.
qui a une femme, un
Non,
homme.
peut-être.
Enfin.
T'as peut-être un truc à creuser là.
Alors, peut-être pour conclure, si chacun veut nous donner un petit avis final sur le film, ce que vous en avez pensé en général, et parce qu'on est dans Il était un plus, une note de 1 à 5 plus.
Ben moi, je suis assez mitigé quand même sur le film. En soi, je ne l'ai pas trouvé désagréable, mais en fait, j'ai eu du mal à dissocier le fait que c'est leur film des 100 ans, que ce qui doit marquer presque l'histoire, on va dire. Il doit être important dans leur filmographie. Et en fait, ben pour ça, je trouve que Acha n'était pas à la hauteur pour ça. S'il n'y avait pas l'histoire des 100 ans, je trouvais que c'était un bon Disney, mais par rapport aux 100 ans, j'aurais aimé quelque chose de mieux. Je trouvais que le méchant n'était pas si emblématique que ça, justement par rapport à l'histoire de Disney. Hein, pareil, ce qu'on a dit, la musique, on a du mal à sortir vraiment un titre qui pourrait marquer comme ça sur plusieurs années tous les spectateurs, le public. Et donc pour ça, je suis assez mitigé. Alors si je devais donner une note pour le Disney en lui-même, le film en lui-même, je lui donnerais allez, 3,5. Mais si je le regarde sous le prisme des 100 ans, je lui donne un 2,5.
Ah oui,
Voilà, c'est un peu plus dur.
trash.
Ah oui, dans le sens, pour toi, c'était pas assez pour les 100
Voilà.
ans, quoi.
Moi, juste mettre des références dans un film, ça suffit pas à en faire un bon film. Voilà. C'est un peu pareil sur l'histoire des. Je trouve que maintenant, on fait un peu trop ça. Pareil par rapport au Spider-Man et tout. C'est pas parce qu'on met des anciens personnages, des références, que ça en fait un bon film. Voilà.
Bah, là, je suis pas trop d'accord parce que moi, au-delà des références, je trouve qu'il y a un esprit qui rappelle vraiment Disney d'origine. Il y a tout l'aspect, ben voilà, on est dans un royaume magique où la magie a toute sa place. On a une, bon, c'est pas une princesse, on dit toujours princesse, mais on a une héroïne Disney qui colle assez bien à celles qui l'ont précédée, on va dire. On a un vrai grand méchant, comme on en a déjà parlé. Il y a une vraie quête. Il y a des chansons qui collent vraiment au schéma, en fait, au schéma comédie musicale qui a été commencé par Alan Menken. Donc, c'est un peu tout cet esprit-là. C'est que pour moi, c'est toute la construction est celle d'un Disney classique. Et là-dedans, bah oui, les chansons sont modernes. C'est beaucoup plus inclusif qu'avant. Il y a des. Oui, c'est un film de 2023, ça se voit clairement, mais avec toute une construction qui est plus celle d'un film Disney classique que ne peut l'être un Encanto ou un Raya ou un Avalonia, maintenant que je me rappelle du titre. Enfin voilà, donc je pense que pour moi, enfin, c'est un peu mon avis final, il a le potentiel d'être un bon classique. Le côté 100 ans, le côté référence, c'est chouette pour les fans. Je pense que c'est un truc qui restera. Allez, c'est quand on le reverra dans quelques années, on se dira, ah oui, c'est vrai, c'est celui qui a plein de références aux autres classiques, etc. Donc moi, c'est un chouette classique que j'ai envie de revoir. C'est pas un énorme coup de cœur non plus, comme a pu l'être un. Moi, c'était Vaiana, par exemple. Vaiana, j'avais adoré en sortant du cinéma. Mais c'est un très bon classique que moi j'ai bien aimé, et moi, je lui donnerais bien un 4+, quoi. Et je trouve qu'il fait assez honneur aux 100 ans. C'est un peu dommage qu'il y ait, entre guillemets, que ça pour les 100 ans, mais c'est bien fait, c'est bien
Quand
amené.
tu dis en reparler, vu, on n'en a pas parlé, mais vu le fait qu'il est complètement en train de bider, de se crasher au box-office, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup qui en parlent. Ou alors, il aura une rédemption dans quelques années, il aura une seconde vie, mais pour
Moi,
l'instant.
je ne serais pas
C'est
étonné.
possible, en fait. Oui, et je trouve qu'on a du mal à dire aujourd'hui avec l'effet Disney Plus, avec l'effet Disney Plus et la vidéo à la demande de manière générale, c'est que Encanto, si je me souviens bien, il avait aussi eu un peu une seconde vie grâce à Disney Plus, mais il n'avait pas tant marché que ça au cinéma. Donc, est-ce que de manière générale, les gens vont moins au cinéma? Est-ce que le film attire moins parce que le nom de Disney n'attire
Moi,
plus
je
autant
pense
qu'avant? Je
vraiment
sais
qu'il y
pas
a une
dire.
réputation qui s'est faite qui est vraiment catastrophique. c'est que n'importe quel film Disney qui sort actuellement se fait lyncher avant même sa sortie.
C'est
On peut
vrai.
prendre allez, le dernier Pixar, je ne retombe plus sur le nom, Élémentaire. Élémentaire avait eu a été bâché comme pas possible avant sa sortie. Le film, moi je l'ai trouvé excellent. D'ailleurs, il est resté super longtemps au cinéma
Ouais,
et il a fini par avoir un succès quand même tout à fait correct. Pas autant que d'autres de Pixar, mais quand même tout à fait correct. Parce que finalement, le bouche à oreille a fini par enlever ça. Mais si on prend, enfin, je suis désolé, mais je sais pas si vous avez été voir The Marvels. Moi, j'ai été voir The Marvels. Je suis pas du tout un fan de Captain Marvel de base, ni dans les comics, ni le premier film. Je trouve que The Marvel, c'est un film tout à fait correct, qui se prend un bashing sans nom, parce que des gens qui n'ont pas été voir le film, qui sont juste là pour dire, ah, c'est des héroïnes, donc c'est mauvais, machin, ou les effets spéciaux sont pas bons, peu importe. Mais en fait, il y a plein de gens qui, à force de dire, avant même que le film sort, c'est pas bien, influencent d'autres personnes à ne pas aller voir le film. Et ça, vraiment, ça, enfin, c'est un message que je voudrais peut-être passer. Enfin, je suis pas personne pour dire ça, mais faites-vous vos propres avis. Ne lisez pas les conneries qu'il y a sur Facebook qui te dit que Acha, c'est woke, que The Marvels, c'est nul parce que ce sont des...
Voilà, tu parles de deux choses différentes quand
Ah
même.
non,
Tu
mais...
parles pas de la qualité du
Non,
film, là,
non,
tu parles sur
sur
les
le problème...
problématiques
Non, non,
Ouais.
mais c'est vraiment devenu systématique. Ouais, et quand même, Disney est beaucoup plus visé que d'autres studios à ce niveau-là. Parce que moi,
Ouais,
je
c'est
défends
vrai.
pas Disney, loin de là, j'aime Disney, mais j'aime autant plein d'autres studios, Illumination ou d'autres studios de dessin animé. Et je trouve qu'il y a un bashing sur Disney qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est pareil, on peut remonter à plus tard, plutôt avec Solo. Solo n'était pas un mauvais film. Solo a été détruit par des gens qui voulaient pas que Han Solo soit joué par quelqu'un d'autre qu'Harrison Ford. C'est ça qui s'est passé. Enfin...
Après, moi je trouve qu'Élémentaire, quand même, a eu quand même. Après qu'elle était au cinéma, qu'il est passé, j'ai vu pas mal de bonnes critiques quand même. Il a eu des bons retours quand même, Élémentaire, au niveau des. Je parle de ceux qui parlent juste du
Ouais.
film, pas des problèmes d'autres choses, que ce soit des héroïnes ou etc. Alors que Wish, par contre, il se fait bien tabasser, mais même pour des gens qui l'ont vu,
Oui,
quoi.
ça je dis pas aussi, mais je trouve, enfin j'ai lu quelques critiques, vraiment pas beaucoup. Je trouve que les gens démontent certaines choses, mais c'est vraiment pour le plaisir de démonter, hein. Je suis désolé, mais quand, enfin, tu sors quand même du film, tu n'as pas vu un mauvais film. Là, y a des critiques qui te disent que c'est mauvais. Je suis désolé, mais c'est pas mauvais. C'était pas ce que tu attends. Et c'était pas
C'est pas Boba
parfait.
Fett, quoi. C'était juste pour le
Clac!
placer.
Non, mais c'est exactement ce que tu dis, Shane, et je pense qu'on touche à un truc, c'est quand tu dis c'est pas ce à quoi tu t'attends. J'ai l'impression que Disney, et surtout ces dernières années, souffre en fait de son nom et de ce que les gens attachent à ce nom. C'est
Voilà.
Disney, ça touche à l'émotionnel des gens, ça touche à l'enfance. Et alors, il y a toute une frange de la population qui, on dirait, a peur que Disney devienne une espèce de complot wokiste ou je ne sais pas trop quoi. Des gens qui ont peur parce que Disney sort des trucs qui sont plus inclusifs, qui sont plus modernes, qui sont plus tout ce que tu veux. Et il y en a qui ont peur de ça, qui sont contre ça, et qui parce que c'est Disney, vont réagir énormément dans l'émotionnel, parce que Disney, tu touches à leur enfance, tu touches, ben oui, voilà, tu touches à l'émotionnel. Et donc Disney est un peu victime de ça. Et je pense même. Il y a d'une part ces gens qui ont peur du complot wokiste ou appelle ça comme tu veux, et puis je pense même au sein des fans, ça peut faire défaut parce que comme c'est Disney, on s'attend à de l'extraordinaire. Et là, on parle des films, mais on
Ah
pourrait parler des
oui.
parcs aussi, par exemple, hein. Comme c'est les 100 ans, on s'attend à toutes sortes de choses, et donc oui, bah, parfois les gens sont déçus parce que Disney
Et
n'est pas
ça,
allé
la
dans cette
déception
direction-là.
prend un pas énorme. Le fait d'avoir tellement d'attentes, les gens ne savent plus aller voir un film et se laisser porter. En général, je trouve, hein, notamment, enfin, parce que les gens regardent les bandes-annonces 20 000 fois pour voir tout ce qu'il y a dans la bande-annonce. Les gens n'hésitent pas à aller se spoiler avant la sortie du film, à aller chercher les choses. Il y a plus beaucoup de monde qui va au cinéma. Enfin, moi, ici, par exemple, à Chelles, je n'avais rien lu, rien vu avant d'aller au cinéma. Je suis arrivé au cinéma, je ne connaissais rien en histoire. Et je suis là, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai profité du film. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on perd. Ça, comme tu dis, les attentes surdimensionnées parce que c'est Disney, mais aussi le fait que les gens ne savent plus dire « je n'aime pas », les gens disent « c'est mauvais ». C'est pas la même chose. Tu ne peux pas dire quelque chose, enfin, tu peux ne pas aimer quelque chose qui est bien. C'est juste des goûts. Non, mais maintenant, quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est mauvais. Oh, c'est nul. N'allez pas voir ça, c'est, enfin, jamais je dirais que quelqu'un ne va pas voir un film. Enfin, faudrait vraiment que ce soit la pire bouse du monde. Enfin, Eragon, si tu m'entends.
Moi, j'avais en tête Sharknado, mais en fait, même Sharknado, j'ai envie de conseiller aux gens de le voir. Voilà, c'est tellement mauvais que ça en devient comique. Voilà, parenthèse fermée.
Mais vraiment, faites-vous un avis. Allez au cinéma, regardez les films.
Et mm-hmm. pour aussi le qu'il est en train de se cracher au box-office, je pense aussi ce qu'il joue, c'est que franchement, on n'en a pas vraiment beaucoup entendu parler. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a Wish au cinéma, qu'il y a un Disney en ce moment au cinéma, j'ai déjà entendu. Il y a eu des périodes où on était plus au courant de la sortie d'un Disney que Wish. Enfin, moi, pour moi, enfin, autour de chez moi, quoi, Wish, c'est pas quelque chose.
Mais j'ai pas vu beaucoup de
pubs. On le voit pas beaucoup.
Fait. Même des affiches dans la rue ou quoi, enfin aux arrêts de bus ou quoi, j'ai pas fait attention non plus.
J'ai plus peu, vu le Wonka qui va sortir, par exemple, que le Wish. D'accord. Enfin, je prends cet exemple-là parce que Wonka, j'avais bouffé rien qu'à cacher au cinéma, il y avait la grosse affiche et j'ai vu deux fois la bande-annonce sur le. Mais.
Enfin bon, après cette longue parenthèse sur le box-office et tout ça, du coup, moi, mon avis, j'irai en grand plus loin que même qu'Emily. Personnellement, moi, j'ai adoré. Honnêtement, il y a des défauts, je dirais pas le contraire. Il y a des trucs qui sont trop gros, il y a peut-être certaines faiblesses. Mais quand tu vas avec le plaisir d'aller au cinéma, de voir un film Disney, qui revient quand même à des fondamentaux plus anciens comme La Princesse et la Grenouille, Réponse pour les j'ai envie de dire les anciens récents, plus loin La Belle et la Bête, encore plus loin Cendrillon, etc. Pour moi, il est tout aussi bien. L'histoire se tient sans les références. Les références, c'est un truc en plus pour les fans. Ça, j'ai bien aimé. Moi, j'ai quand même été entraîné par la musique. Même si on a parlé des défauts de traduction, etc., la musique est quand même entraînante. Moi, c'est ça, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est la musique est entraînante.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, vraiment, si vous hésitez, moi, je vous conseille d'aller voir, essayer. Peut-être que ça ne vous plaira pas, ce ne sera pas la fin du monde. Vous aurez soutenu votre cinéma, pas Disney, mais votre cinéma près de chez vous. Et du coup, pour moi, je mets 5 plus. Voilà. Pour moi, c'est un top.
Okay, t'as raison. Et t'as mis, si toi, t'as vu que tu te sois régalé, c'est le but du cinéma. Et là où je rejoins Emily, c'est que oui, pareil, faudrait que j'aimerais bah, le revoir, parce que je pense que peut-être j'en profiterai plus une deuxième fois que sur la première fois.
Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Avant de faire notre petite conclusion classique, Cédric, qui s'est pas mal occupé de notre compte Instagram ces derniers temps, et d'ailleurs on le remercie, voulait profiter de la fin de l'année pour faire quelques petits remerciements à vous, nos chers auditeurs. Donc Cédric, je te laisse la parole.
Voilà, donc pour ce dernier épisode de l'année, je répète plus qu'à des milliers, on avait envie de remercier donc tous nos auditeurs et auditrices. Que ce soit ceux qui ne loupent aucun de nos épisodes, ou ceux qui picorent un peu par-ci par-là ce qui les intéresse. Et après, on voudrait quand même tout de même remercier plus particulièrement certaines et certains d'entre vous qui réagissent régulièrement à nos contenus. Et donc, tout d'abord, je remercie Sarah, dont Il était un plus et le podcast qu'elle a le plus écouté cette année. Et
bravo.
Voilà. Donc, et apparemment, on lui donne récompense, parce que c'est, faut savoir que Sarah est montoise. Et donc, vous devinerez qui a dit qu'on lui donnerait une récompense.
On transmettra.
Voilà, donc je vais lui faire un peu sa promo, parce qu'il faut savoir que Sarah et son mari, ou partenaire, je ne sais pas s'ils sont mariés, sont deux Belges qui passent leur vie en voyage. Et ils ont un podcast qui s'appelle À travers le monde des chats trotteurs, où ils racontent leur aventure à travers le monde, leur voyage et du programme Vacances-Travail. Et j'ai écouté un petit peu, c'est très sympa. Et donc, je vous le conseille, et vous pouvez les suivre sur leur compte Instagram qui s'appelle les chats trotteurs. Voilà. Donc merci Super. Sarah. Après il y a Didier qui échange beaucoup sur Instagram et il nous donne régulièrement son avis sur divers films et séries. D'ailleurs il nous a fait récemment un retour très complet sur Wish qu'on partagera peut-être, on verra. Donc merci Didier. Puis Nadège pour sa fidélité, sa gentillesse. D'ailleurs si vous êtes fan de Disneyland Paris, je vous conseille de suivre son compte Instagram Nadège Sonrisa. Il y est très souvent, il aime le partager, donc merci Nadège.
Ah oui, si vous voulez voir les spectacles en différé, allez sur son compte, vous verrez tous les spectacles de Disneyland Paris.
Ah ouais, passe tout.
Ouais.
Après, il y a Laetitia, qui il n'y a pas longtemps nous a confié sortir tout juste du traumatisme du Libéré des livres. Donc merci. Merci Laetitia de nous écouter.
Il y a pire comme traumatisme.
Pense à toi.
Alice du podcast Craft et Blabla. Donc, si vous aimez les loisirs créatifs, c'est le podcast à écouter. Avec sa comparse Hortense, elle vous distille plein d'idées de conseils. Elles sont très sympas. Merci Alice, on t'embrasse. Après, il y a Cédric. Alors, pas moi, mais le Cédric était là avant moi. Il nous suit toujours et il nous laisse régulièrement des petits messages sympas. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, il nous en a laissé un, j'ai vu, pendant qu'on a enregistré. Mais bon, il sait très bien qu'il ne pouvait y avoir qu'un Cédric dans la vie. Merci Cédric.
J'ai entendu que tu l'as chassé, c'est pas gentil.
Ouais. Et ouais, il le sait. Et on embrasse d'ailleurs également Linda. Après, il y a Tony qui nous écoute toujours, et même quand on ne parle pas de Star Wars. Merci Tony. Et puis après, il y en a beaucoup. Il y a Sandrine, Amélie, Estelle, Caloire. Il y a une autre Alice. Alors on va s'arrêter là parce que sinon on en aura encore pour un petit moment. Mais on vous remercie tous et toutes de nous suivre. Et on espère que vous allez continuer à nous écouter. Voilà. Voilà, désolé si j'en ai oublié.
Et tous ceux qui nous écoutent dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Mais si n'hésitez pas à venir sur Instagram. Cédric et Clem vous feront un plaisir de vous répondre.
Ouais. Ouais, non, en tout cas, merci à tous. Allez, comme on disait, ça nous fait super plaisir de voir vos réactions, vos commentaires, vos suggestions d'épisodes aussi. Croyez bien qu'on les voit passer. Et même, voilà, ceux qui font, entre guillemets, que écouter, on voit les chiffres aussi et ça nous fait super plaisir. Donc, voilà, encore merci pour ça en cette fin d'année. Écoutez, on espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à intervenir sur les réseaux sociaux. L'équipe est là pour vous répondre. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Alors, pour la suite, l'équipe d'Il était un plus va prendre une petite pause bien méritée pendant les fêtes.
Je voulais féliciter Charline qui a accueilli un nouveau membre dans sa famille.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On lui fait des gros bisous.
Charline
qui a accueilli un petit bout de chou.
Nathanaël.
Et qui donc est fort occupé en ce moment, forcément.
Et fort fatigué, disons.
On félicitera Shane bientôt aussi, au passage. Ça se voit pas, mais il est en panique, là.
ça coule, là. Il y a mon front qui est tout vide.
Ouais. Donc, allez, bisous de la part de toute l'équipe. Nous, on va prendre une petite pause bien méritée pendant les fêtes. On va prendre le temps de vous concocter un chouette planning pour 2024. Donc, on vous donne déjà rendez-vous pour de nouvelles aventures. Mais pas tout de suite, parce qu'on doit se reposer. Voilà. Donc, encore merci à tous pour votre soutien, pour vos écoutes, pour tous vos retours. Ça nous fait vraiment plaisir. On vous souhaite de très belles fêtes. Et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+.
Salut.
À plus. Salut.
I only hope that we never lose sight of one thing. That was all started by a mountain.